Je pense que quand tu démarres, tu peux te permettre des choses que tu ne peux pas te permettre plus tard.
À la taille,
Donc
exactement.
déjà, tu vois, quand on a démarré, je pense que on faisait beaucoup moins attention à certains aspects, mais on a été rappelé rapidement à
Rapidement.
l'ordre. Et je veux
Rapidement.
expliquer cette histoire-là parce
Ouais.
que tu vois, on l'explique parfois à des gens et tout, mais je pense que publiquement, il faut que les gens sachent
Sache,
quoi.
bien sûr.
Donc, nous, on n'a jamais voulu faire de communication parce que on veut vraiment travailler dans l'ombre.
C'est ça leur
Tu
spécialité.
vois, focus sur le produit, focus sur le client. C'est notre ADN. On n'est pas pour faire du PR, etc. Sauf que quand on est rentré à Y Combinator, en fait, tu es entraîné un peu par la machine. Tu es
Bien
entraîné
sûr.
par la machine.
Première boîte ivoirienne à Y
Voilà,
Combinator.
première boîte ivoirienne.
Ouais, faut pas nous expliquer
Tu
comment
dois faire. Je vais
alors,
entrer là-bas.
voilà, et qu'est-ce que
Tu
c'est
dois
Y
faire. Passer là, il y a des histoires dans
Combinator?
l'histoire. Ah, va jusqu'au
tu,
bout.
tu
On
dois faire une
reviendra.
levée de fonds
juste derrière avant
mmh.
démo day. Donc, tu es obligé de construire du momentum
Ouais.
autour de ta boîte, un high profile, etc. Donc, on a décidé de parler à TechCrunch. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui nous ont contactés
Ouais,
et
bien
ça nous
sûr.
a. Donc, on s'est dit, OK, pourquoi pas, on fait un article de
Allons-y,
TechCrunch. En
voilà.
plus, tout le monde, toutes les autres boîtes de Y Combinator cherchaient à en faire un.
Oui, et
Sauf
vous
que nous,
êtes.
on avait la chance, vu ce qu'on était en Afrique, et il y avait
Oui.
un nouvel écrivain,
Tage, ouais,
Tage, qui
Tage,
était
qui
là.
était le correspondant d'Afrique.
Ouais, exactement, voilà.
Shout
Donc,
out to Tage, happy
tu vois, il
Global.
devait faire des articles et tout. Bref, donc, on rentre un peu dans la machine et on rentre. Il publie cet
Il
article,
publie cet
etc.,
article TechCrunch.
qui fait le buzz.
Ouais.
Vraiment, bon, je ne sais pas comment ça a été vu de l'extérieur, mais nous,
Ouais.
comment on l'a vu, ça a créé un énorme buzz.
Ouais.
Et ça me rappelle quelque chose que tu disais justement. Je ne sais pas avec qui tu faisais le truc où tu parlais que quand tu as levé les fonds, tout le monde est content autour de toi.
Et toi, tu sais
Et
l'étendue
toi, tu
de
sais ce que tu dois
ce que
faire.
tu dois
Et en
faire.
tant que fondateur, souvent, c'est comme ça. Il y a une différence, un contraste entre comment les gens se sentent autour de toi
Oui.
et comment tu te sens
Très
vraiment.
souvent.
Tu vois.
Non,
Et en
mais.
tant que leader,
C'est constant.
c'est lourd hein,
Oui.
de sourire aux gens, tu vois, de ne pas leur dire certaines choses, tu vois.
En
Mais
fait,
toujours
tu
tu
les
les couvres
couvres
en
en
fait,
quelque sorte.
c'est brutal, tu absorbes ça.
Et c'est énorme parce que ce que tu décris là, c'est ce que je dis souvent. Oui, dans tous les trucs que j'ai regardés, en fait, c'est comme tu disais, tous les leaders. Tu dois à chaque fois maintenir une dissonance cognitive, ils appellent ça.
Oui.
Je ne savais pas comment ça s'appelait avant de me découvrir. Je me suis dit, mais en fait, c'est un vrai truc parce que tu dois en permanence projeter la confiance dans le futur tout en sachant pertinemment, en étant suffisamment
Le
parano
challenge.
sur tout ce qui ne marche pas.
Oui,
Mais
c'est
ouais,
ça.
mais c'est dingue parce que non seulement vis-à-vis de tes employés, mais vis-à-vis de ta famille aussi.
Oui.
Mais
Moi, tu
tes
vois.
investisseurs, ils viennent de lever.
Oui, tu
Mais ce qu'il faut
sais.
comprendre, c'est que ces gars-là étaient les rois du pétrole jusqu'à ce qu'on leur dise
Vous arrêtez
cut. C'est comme si tu es en train de courir et puis d'un coup le sol se dérobe sous tes pieds.
tout. Ouais.
Et donc, comment ça se
Non,
passe
non,
là?
non. On va pas
Donc
rentrer dans les
là,
détails, mais bon,
on va pas
on a
rentrer
résolu
dans
le
les détails, mais ce qu'on
problème.
a fait, on a contacté des avocats.
Avocat, bien
Ah,
sûr.
et puis voilà, ils
on a commencé.
ont résolu.
Et en fait, au final, en rétrospective, c'était la meilleure chose qui nous
C'était
soit arrivée.
franchement, c'était trop.
C'était
Sérieux?
vraiment
Parce que
la meilleure
ça vous
chose.
arrivait.
Parce que
Non,
ça
non.
nous a réveillé, on a dû vraiment comprendre
Comprendre la conformité,
la
la
réglementation, dans
réglementation et
quel
tout
cas nous on
ça.
se plaçait. Et en fait, le courrier de la Banque centrale est arrivé bien plus tard. Tu vois, parce qu'en fait, il faut attendre un courrier officiel, etc. C'est arrivé bien plus tard. Donc, on a eu le temps vraiment
De
de
corriger les
se
choses.
préparer, de
Ouais.
corriger, de faire toutes les choses. Et c'était un exercice qui, aujourd'hui, nous permet d'être dans la situation qu'on est aujourd'hui, où les founders connaissent la réglementation parfois mieux que tout le monde, tu
Mieux
vois,
que
dans la
tout le
boîte.
monde.
C'est-à-dire,
Moi, je
peut-être,
vois.
tu vas me poser n'importe quelle question sur la réglementation. Hier, on était avec
La Banque
peut-être
centrale.
la Banque centrale. On est capable de répondre à tout. Et ça te permet de réduire tous les risques réglementaires de ton
Super.
activité.
Et en
Voilà.
fintech, c'est essentiel.
Et
C'est
c'est
essentiel.
important, c'est
Ouais. Il y a
important.
beaucoup de fintech qui s'arrêtent, tu te demandes pourquoi.
Pourquoi?
Mais quand tu creuses, c'est
C'est
souvent
pas
ça.
grave.
Parce que,
C'est
voilà,
ça.
justement, de l'extérieur, tout le monde se dit, c'est juste une application.
Oui,
Tu
c'est
vas
pas
faire et tout, mais
ça.
ça n'a rien à voir. Je suis désolé,
Mais
c'est
la
dans la
conformité,
finance, c'est l'argent des gens, tu dois faire attention. Et il y a une raison pour laquelle la Banque centrale existe, c'est
Oui.
pour protéger l'argent des gens.
Parce que c'est
Tu vois, et
dangereux.
c'est ça leur boulot, et ils le font super bien, tu
Ouais.
vois. Et toi, tu peux pas venir comme un oh là là, ok, moi je viens créer mon truc et tout ça.
Mais
Tu penses que les gens qui sont là,
même
ils sont bêtes ou bien?
c'est ça, ils sont là
Tu vois,
depuis.
ils sont là il y a longtemps, ils font certaines choses comme ils le font,
Ouais.
pour des raisons.
Il faut connaître les
Et
risques et
il
les
faut
raisons.
savoir tout
Moi,
ça, en
quand
fait, tu
j'ai
vois.
vu l'option compte rémunéré, je me suis posé la question. Je me suis dit, ah ouais, mais du coup, il faut avoir certains accords pour
Oui,
pouvoir offrir
ouais,
ça. Tu peux
oui, c'est
pas
ça.
tu vois les partenaires, ils ont des partenaires.
Oui, chaque fois, c'est fait. On a eu un agrément d'apporteur d'affaires qui nous permet justement.
Mazel tov, les gars. Tu vois, ils te disent ça là. On a eu un agrément d'apporteur d'affaires.
Oui, sauf que c'est. On a la première fintech de la région à l'avoir eu.
Merci. Comment ça bien parler, mon ami.
Mais ce que je disais, c'est qu'on fait, on a ce rôle-là de pionnier, puisque comme il a dit, on travaille sur les services financiers de nouvelle génération, tu vois. Tout ce qui a été fait déjà aujourd'hui par le mobile money, par les banques, ça marche super bien. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment des services de nouvelle génération. Et donc, tu dois à chaque fois construire ces produits-là, les expliquer aux régulateurs, les expliquer à tes partenaires, parce que très souvent, on est adossé à des partenaires, les expliquer aux clients et tout. Mais on est content aujourd'hui de jouer ce rôle-là parce que je pense que le positionnement qu'a aujourd'hui Jamo est assez innovant, qui propose des produits financiers vraiment très avant-gardistes et tout ça.
Sur l'explication aux clients, je trouve que c'est vraiment un de vos points forts. Et je le sais parce que même quand on discute, nous, avec les clients, souvent, ils disent comme Jamo fait. Comme Jamo fait. C'est-à-dire que je me souviens que...
Dans la communication.
La communication, en fait, c'est bien, c'est qu'elle est dans ton parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas voir là où la plupart des clients vont... et à juste titre, sinon nous, on n'existerait pas. Mais faire des posts sur Facebook, voilà. Twitter pour expliquer quelque chose... Tu vois, un changement ou quoi, ou expliquer un truc. Eux, quand tu vas sur l'app, tu vois, tu vas avoir l'explication de la problématique du moment. C'est-à-dire, on ne va pas t'envoyer dans le FAQ ou je sais pas quoi. Je sais qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de questions sur les commissions.
Les taux de change.
Et les taux de change. Leur plus belle opération. Où ils sont devenus profs d'économie, doublés de profs de finance.
Ah, il faut se passer en tout cas.
Et dès que t'arrives, du coup, t'as la petite explication bien pédagogique sur l'appli, quoi. Et c'est vraiment, vraiment smart.
Non, c'est important parce que déjà, un chiffre qui est intéressant pour nous, c'est 60% de nos utilisateurs, c'est le premier carte qui est Jabo. Et ça, c'est que le produit paiement. Imagine sur les autres produits, coffre, économie, tu vois, c'est encore plus de personnes.
Donc, beaucoup de pédagogie obligatoire.
Énormément.
Vous avez un blog aussi.
Voilà, mais le truc, c'est que déjà, tu dois rendre le produit simple, intuitif et plaisant à utiliser. Tu vois.
Vraiment, dans un grand point.
Voilà, et essayer de déguiser un peu la pédagogie dans le produit. C'est assez subtil. Mais ça, comment tu fais
ça? Pour moi, c'est une leçon pour tout type de produit.
Oui,
c'est ça. Pour tout type de produit, finalement. Tu vois, tu dois t'adapter à ta cible, parler son langage, il faut que ça soit plaisant. Quoi.
Exactement. Ouais. Et il faut que c'est une sorte de boucle. Tu ne t'arrêtes pas juste à la première version. Tu dois mettre en place une sorte de dispositif qui te permet de récupérer ce que le client pense de ton produit et surtout comment est-ce qu'il utilise ce produit-là. Et ça, c'est des chiffres, la data. Donc nous, par exemple, on va tout traquer. Si tu as 5 écrans pardon, pour faire une action, on va traquer ton progrès sur les 5 écrans. Et si jamais tu t'arrêtes, par exemple, à l'écran 2 ou l'écran 3,
on sait qu'il faut l'améliorer.
Il y a un problème, par exemple. Tu vois, donc on va voir combien de personnes s'arrêtent à l'écran 3. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il faut savoir ce qui se passe et tout? Et voilà, donc tu as besoin de ce feedback, cette boucle-là qui te permet d'améliorer constamment.
Tu vois, les startups, les gars, juste à côté pour ceux qui ont besoin de se cultiver là-dessus.
C'est ça. Et nous, on sort une version de Jamo chaque 3 jours. C'est transparent
pour vous. Déployez les 3 jours.
En production chaque
3
jours.
Non, mais attends, un jour, je lui pose une question et tout parce que bon, je suis coupable, effectivement. Je prends un peu Régis pour mon service.
C'est client, c'est ça?
Ouais, je suis open à ça. Moi, j'aime ça, il n'y a pas de problème.
Et il me dit, non, en fait, il faut que tu ailles dans le truc. Et je ne trouvais pas le truc. Et il m'envoie un screenshot. Et puis, je ne sais pas, je vois dans son écran, tu vois, une fonctionnalité.
Que je n'ai pas encore.
J'ai pas, mais, attends, mais comment on fait pour... Il dit, ah non, ça laisse, c'est ma
ça
version.
Ça laisse.
C'est ma version.
C'est ma version.
C'est la version à moi.
Lui, il a sa version de Jamo. Ah,
c'est un super rapport. Lui, il a la version à moi. Non, les fonctionnalités sont testées.
Mais c'est important.
C'est ça.
Et du coup, pour Y Combinator, qu'on a beaucoup parlé.
On a beaucoup parlé de trucs. C'est bien que les gens parlent de ça. Je pense que juste pour conclure la partie à Talakou, je veux quand même que l'on se rende compte, au-delà de la quantité de levée. Je sais que vous avez quand même... Et genre, il faut réaliser...
Mais dis les chiffres de levée, d'ailleurs.
Chiffres de levée. Moi, je mets les chiffres publics. Après, ils ont leurs chiffres à eux.
Non, oui, quoi, public, c'est bon. On a levé plus que ça.
Vous avez levé plus de 14 millions. Ouais. Mais ceux qu'ils ont annoncé, là, la levée qu'ils font, qu'ils ont la couronne et la croix qui va avec, 14 millions. Mais ils ont levé plus. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce qui est important pour moi, surtout que vous avez réussi, et c'est un truc que je dis à chaque fois aux gens, les gens ne se rendent pas compte ce que ça veut dire, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous passez à des niveaux qui créent limite une nouvelle boîte à chaque fois. Avoir 200 employés, c'est pas anodin. Mais surtout, vous avez maintenant presque plus d'un demi-million de clients, si mes souvenirs sont bons. J'ai vu ça quelque part, dans un endroit bon, passé.
Je t'ai dit qu'on a 2 millions de téléchargements. Donc, c'est suffisant pour toi.
Faut tu vois,
ça.
2 millions de téléchargements. Je sais pas si tu réalises. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce que je dis aux gens, c'est que ça veut dire qu'en termes de problèmes, vous gérez 2 millions de téléchargements, c'est plus d'habitants que le Gabon. C'est que, limite, vous gérez quasiment un pays. Et ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'en fait, les problématiques que vous avez, vous, sont maintenant à des niveaux.
Non, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
En termes d'opération, en termes de prise en charge des clients, en fait, il faut penser en termes de système.
Exactement.
Il faut vraiment penser en termes de système. C'est plus juste. Mais la difficulté, c'est quand même, même quand tu penses en termes de système, garder cette proximité avec,
avec le client. Bien sûr.
Donc, c'est vraiment d'autres problématiques.
Et une agilité pour pouvoir, justement, nous, on s'est vraiment placé comme une plateforme qui va shipper rapidement.
Oui.
Donc, on va innover très rapidement sur certains produits et des choses qui ne vont pas forcément bien marcher au début. Mais c'est le pari qu'on fait. C'est-à-dire on va vraiment tester,
tester et
voir ce qui marche et revenir et améliorer. Tu vois? Donc, il y a des choses. Mais là, de plus en plus, tu ne peux plus faire ça.
Il y a des conséquences tellement lourdes à ce que vous déployez, à ce que vous faites.
Et on commence à le ressentir. Et maintenant, avec un nouveau marché en plus, tu ne peux pas tester quelque chose et ça va casser quelque chose sur, sur l'autre marché. Donc, tu es obligé de faire vraiment des choses qui vont... être dans un système plutôt
mais du coup avec
et ton système dans ton système tu dois inclure des choses qui vont contrôler ce que tu fais par exemple et peut-être te le signaler ou corriger automatiquement et avoir de moins en moins d'interventions humaines
tu vois c'est très
parce que l'humain en fait c'est là qu'il y a la faille
c'est une phrase de dev c'est les devs ont cette phrase j'adore Luc il aime bien dire comme si tu vois à chaque fois il dit le problème en général se passe entre la chaise et le clavier. C'est un bouli là. Sa phrase fait vrai. Quand tu lui dis il y a un bug, il dit en général le bug se passe entre la chaise et le clavier. Je dis mon ami, ça c'est quelle sorte d'insulte que tu as rien à dire aux gens comme ça.
Moi je fais confiance à la personne. C'est ça. Je viens de Mobile Money, j'ai vu ce que la fraude peut faire.
Ah ça c'est un autre gros point. C'est
non,
vrai.
Je fais confiance à la personne. Moi j'ai mes systèmes qui vont m'alerter. J'ai tout automatisé et même derrière la personne, il y a un système qui va le contrôler.
Et tout ce qui est sécurité, vous le faites en propre
en interne. Développement. Tout est développé en interne.
Donc, juste pour les gens qui veulent faire des fintech là, et qui nous écrivent en mode ah, je veux lancer un agrégateur, je veux faire ci, je veux faire ça. Cet épisode, c'est pour vous rendre compte de l'étendue du travail qu'il y a, des compétences qu'il y a, qu'il faut avoir. Hein, parce que bon, après, on va revenir un peu sur votre début. Mais moi, le point important, c'est que les gens se comprennent. Pour arriver à dire, je veux faire un Jamro, je veux faire un truc comme ça, là, il faut se calmer, les amis.
Mais justement, moi, j'ai une question qui est peut-être un peu macro, mais de mon œil un peu extérieur. Je vois vraiment beaucoup de gens, soit effectivement qui souhaitent faire des fintech, ou même qui en font. Chaque fois qu'il y a des levées de fonds en Afrique anglophone, je sais pas, j'ai l'impression qu'à 70%, c'est de la fintech. Donc, comment est-ce que... on peut en fait se dire qu'il y a de la place pour tout le monde finalement parce que si tout le monde fait des agrégateurs, je vois pas l'intérêt.
Je pense déjà, il y a l'intérêt sur la fintech de la part des investisseurs parce que l'opportunité est grande. En Afrique, il y a énormément
d'infrastructures,
il y a énormément d'infrastructures à construire. Donc, les investisseurs se disent, OK, c'est là-bas qu'on peut miser et puis avoir gros. Mais ça crée quoi? Ça crée des gens qui voient les levées de fonds et qui arrivent, qui s'auto-programment entrepreneurs dans la fintech et qui arrivent justement pour capturer ces opportunités-là. Sans savoir que par derrière...
Il y a le métier de finance.
C'est des compétences énormes.
D'accord.
Tu vois? Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'ils attirent tous ces gens-là. Qui arrivent sans savoir exactement.
D'ailleurs, même ceux dans quoi ils mettent des pieds. Je dirais que c'est le secteur le plus compliqué parce que c'est là où tu as le plus de concurrence. Et c'est le secteur où tu as l'aspect réglementaire. Exactement. Quand tu veux lancer quelque chose... Toi, en e-commerce, demain, tu peux lancer n'importe quel futur.
Ça va, quasiment, Tout le monde est bien, tu vois. Nous, on est en mode...
Tu as une couche fintech aussi.
Oui, j'ai une couche que j'ai dû faire pour suivre mes clients. Mais ça n'a rien à voir avec eux. C'est-à-dire que moi, je peux m'appuyer...
La banque centrale ne va pas aller le voir en lui disant « Tu es en train d'offrir ce produit-là, tu n'as pas le droit. »
C'est un aspect... Il y a de gros problèmes avec les différences de monnaie, de devises d'un pays à l'autre.
Bon, ça, c'est partout.
C'est parce que moi, j'ai l'autre problème, c'est que moi, je suis dans plein de pays. Tu vois, ils ont fait d'abord Côte d'Ivoire longtemps. Moi, day one, j'étais déjà dans 40 pays. Donc, si tu veux, moi, je gère... Ma complexité financière vient de mon étendue. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans 40 pays. J'imagine que les gens du Bénin vous fatiguent tous les jours que Dieu font. Tous les jours. En fait, les gens ne se rendent pas compte que...
Voilà. C'est dur, hein.
C'est dur, c'est parce que la tentation est là. Eux, ils voient juste... Ah, mais ouvrez l'app. Et puis, c'est fini.
Alors que tu as chaque fois...
Et l'autre point sur la fin que je voulais rajouter, l'autre difficulté, c'est que tu seras probablement en train d'éduquer ton marché.
Oui, parce que les gens ne savent pas ce que c'est.
Et, et dans ces contextes-là, c'est difficile d'avoir une satisfaction client élevée. Parce que les gens vont se plaindre. Ouais. Et ils vont mettre les failles du système.
Sur toi.
Ils vont mettre ça sur
toi. Bah oui, mais qu'on aime ou pas Jumia, c'est ce que Jumia a dû aussi subir.
Exactement. Non, pour le coup, sur le Jumia, ils ont défraîchi le marché et ils ont essuyé les plâtres pour énormément de gens. Exactement. Et pour faire vraiment une transition, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, le chemin le plus rapide, si tu veux être un founder dans la fintech ou ailleurs, c'est d'être dans une boîte.
Il faut être là-bas.
Dans une startup.
Il faut passer là-bas. Tu regardes les problèmes, tu vois les problèmes.
Voilà. Là, tu es dans la réalité. Voilà. Là, tu apprends et là, tu es… En plus, la vérité, c'est que vous pouvez leur confirmer. Parce que quand moi, je le dis, on peut passer pour un escroc. Mais je leur dis à chaque fois, même si tu te dis mon but, c'est de lever demain, ta meilleure chance, c'est d'avoir été un jour chez Jamo, par exemple. Si tu te dis, je vais faire une fintech demain, là, si tu veux qu'un investisseur prenne ton appel, tu as plutôt intérêt à avoir eu une expérience avec ces gars-là. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils défraîchent tellement de choses que tu ne peux voir que de l'intérieur.
Ça va rassurer l'investisseur. Ouais.
Et en plus, tu te rends compte, ils vont te payer pour t'apprendre des choses. Et ils payent pas mal. Je tiens à le dire. Tu vois, ils sont là en mode, oui, non, on s'en fout de l'argent. Mais c'est un bon cadre. Je veux dire, c'est que, et c'est souvent mon message aux gens qui me disent, je vais lancer des fintechs, je ne comprends pas. Si tu me dis, j'ai bossé chez Jamo, j'ai bossé chez Upto, j'ai bossé dans telle fintech, et je vois qu'il y a ce truc-là que je veux faire.
Il y a ce gap-là que tu lui remplis.
On peut causer, mais tu n'as rien fait.
Tu arrives comme ça, tu écris la même chose, une copie conforme.
Bon. C'est pas sain et c'est dangereux. Encore plus dans d'autres domaines. Ce que je veux dire, c'est qu'ils t'ont dit, hein, il y a des prérequis. Il faut que tu aies un cofondateur tech. Il faut que tu aies une expérience business. Il faut que tu aies un. Mais même si tu as tout ça, ou même le meilleur endroit pour avoir tout ça, c'est avec eux. Et souvent, ce que je dis comme message aux gens, c'est que moi, demain, si moi, je devais arrêter ma boîte, j'irais bosser avec des gens comme eux. Alors que j'ai déjà fait une boîte. Parce que je sais l'étendue du bagage qu'il faut avoir.
L'apprentissage que tu vas
faire. Je ne vais pas me lever en fintech demain et puis je vais…
Et même, je pense qu'on serait les premiers, nous, en tout cas, à les pousser. Tu vois, nous, on a plein de gens en interne où on voit un potentiel qui puissent entreprendre eux-mêmes, etc. Et il y a des choses… sur lesquels, que ce soit dans la fintech ou dans d'autres secteurs, sur lesquels Jamon ne va pas travailler.
Bien sûr.
Parce que c'est un segment qui ne correspond pas au segment de départ, à une niche ou un nouveau produit sur lequel on ne veut pas passer de temps.
Ouais.
Par exemple, l'open banking, c'est quelque chose, on attend le premier qui va faire de l'open banking. Quoi,
parce il y en a besoin.
On en a besoin. Mais nous, on n'a pas le temps de le faire, tu vois. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités, mais… Une fois que tu es à l'intérieur de Jamo, je pense que tu peux voir justement ces manquements-là, voir comment on opère et ça va t'aider à…
J'ai une question du coup parce qu'on a 200 employés, il y a les levées de fonds, il y a beaucoup de R&D, il y a beaucoup de veille à faire. J'aimerais vraiment savoir comment vous êtes structuré, c'est-à-dire en termes de département. Tu as parlé de l'idéal en termes de fondeur, CEO, CTO, mais… En termes de département, en termes de groupe, et déjà, puis peut-être sans pouvoir comparer avec.
Déjà, je pense au niveau nous de ce qu'on fait bien, c'est vraiment de séparer comment dire ça en français, les responsabilités. Tu vois.
Les responsables. Oui, j'ai vu, il y a des choses qu'ils découvrent. Heureusement qu'il y a le podcast, ça, vous découvrez.
Tu vois, produits tech, un peu de stratégie, un peu de marketing pour moi. Bon, il y a des choses, il y a des endroits où on se croise, mais vraiment les scopes sont vraiment différents. Et ce qu'on fait en général, c'est que on laisse la décision à la personne qui est la plus compétente dans
le domaine.
D'accord. Et si jamais on s'entend pas, on va regarder peut-être la data, pour un peu, tu vois, prendre la décision. Donc déjà, ça, c'est très important. Parce que je pense qu'il peut témoigner. Quand vous marchez dessus, c'est compliqué.
Déjà, vous êtes deux founders.
On n'a que deux. Et c'est pour ça qu'être trois, c'est encore mieux parce que tu as quelqu'un qui va te départager.
Dans tous les cas.
Mais nous, on est vraiment tellement complémentaires. On s'est jamais disputé,
Donc, vous êtes deux.
Donc déjà, les scopes sont vraiment au niveau de fondateur. Il faut les séparer. Ensuite, en interne, bon, je vais parler de ce que moi je fais au niveau du produit tech. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, c'est que les devs ne se sentent pas impliqués. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une structure où, justement, c'est le gars qui porte, le collaborateur ou la collaboratrice qui porte l'action. Donc, j'explique simplement. Donc, nous, on a probablement des objectifs pour cette année, par exemple, pour dire, OK, on veut être dans telle situation pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir être profitable, je ne sais pas, tu vois. Je donne un exemple. Et on a besoin d'atteindre tel chiffre. Tu vois, et donc ces chiffres là qui me sont moi attribués, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais les cascader à toute l'équipe,
Tu vois. À toute l'équipe ou à des
chaque personne
des collaborateurs seniors, tout le monde
à toute l'équipe.
Ok,
donc l'équipe par exemple organise ce qu'on appelle des squads, donc, c'est des bataillons. Et donc, les squads, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un peu de tout. Ils ont des développeurs front-end, back-end. Ils ont des gens qui font de la qualité.
C'est des différentes équipes complémentaires,
c'est
en fait.
C'est différentes équipes. Donc, en fait, dans un squad...
Qui sont en compète, qui ont tout.
À elle seule pour faire une tâche.
Ouais, ouais, donc c'est des mini.
C'est des mini boîtes, tu vois.
Super. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas dans les plus grosses boîtes, les Airbnb et compagnie, ils opèrent tous comme ça avec des petits squads qui sont complètement indépendants.
C'est pour ça que parfois on dit que les produits secrets sont gérés par des squads et les autres sont pas au courant.
Exactement. Et donc dans le squad, tu as back-end. Back-end, c'est des gens qui travaillent sur ce qui est en arrière. Front-end, c'est des gens qui vont travailler sur l'application. Qualité. Tu as un tech lead, donc un gars qui va prendre la décision sur l'architecture. Et puis tu as un chef produit, et puis tu as quelqu'un de la data, designer, et puis un designer produit, quelqu'un de la data, et puis tu as un chef produit.
D'accord.
Et donc ce bataillon-là, il en charge de ce qu'on appelle des expériences. Donc une expérience, c'est quoi? C'est par exemple recharger, faire un dépôt sur compte Jamo.
Ok.
C'est une expérience. Okay. S'inscrire à Jamo, c'est une expérience. Payer avec Jamo, c'est une expérience. Donc chacun de ces squads-là, ces bataillons, ils ont 5 ou 6 expériences sous leur scope.
D'accord.
Tu vois? Et quand moi, j'arrive et puis je dis, je veux par exemple 1 million de clients ou je veux une augmentation de 20% sur le nombre d'inscrits, ça rentre dans le scope d'un bataillon.
D'un squad. D'accord.
D'un squad, tu vois. Et ce que lui doit faire, c'est trouver ce qu'il doit faire dedans, en tant qu'équipe pour atteindre ces 20% de trucs-là.
Bon, sachant que ça peut impacter d'autres bataillons, je suppose.
Oui, ben après ça, c'est de la collaboration.
Oui, après, oui. Okay.
Mais en général, c'est le squad qui porte le projet.
Okay.
Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce chiffre-là. Ils vont s'asseoir, ils vont faire le brainstorming, ils vont dire, OK, qu'est-ce qu'on fait comme fonctionnalité pour atteindre ce chiffre-là, par exemple.
Et avant de commencer, ils vont te présenter leur vision.
Oui, exactement. Mais en général, ce chiffre-là va venir de ce qu'on a, d'un problème qu'on a remarqué. Tu vois, ça va venir d'un problème. Donc, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est trouver la solution à ce problème-là, là où les solutions à ce problème-là.
Okay.
Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils se mettent au travail.
Avec un objectif clair à la fin.
Exactement. Donc, l'ingénieur data, c'est quoi son, avec le chef produit, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent chiffrer cet objectif clairement.
Ils ont une base de départ et un objectif.
On est ici aujourd'hui et on va là-bas après les 3 mois.
Okay.
Et tout ce qu'on va faire au milieu, là, ça revient à ce que je disais avec l'anecdote du saut. On s'en fout de ce que vous allez faire au milieu.
Régler le problème au bout de 3 mois.
Régler le problème au bout de 3 mois.
Par contre, j'imagine que vous leur demandez, vous faites des sprints. Vous avez des choses au milieu.
Ça, c'est eux qui gèrent.
Pas de sprint. D'ailleurs, moi, c'était un des changements majeurs entre mon autre boîte et...
Il n'a pas aimé ça au début.
Je dis, mais Régis, on ne va pas faire des sprints. Non, non, pas de sprint. Okay. OK, au début, donc, on va être en Kanban et tout, et je comprends. Mais à un moment donné, on va passer à des sprints. Non, non, pas de sprint.
Pas de sprint.
Et jusqu'à maintenant, sprint, jamais de sprint. Quoi.
Un sprint, en fait, c'est une sorte d'organisation, un cycle où c'est très structuré. On commence au début, on dit ce qu'on veut faire, et puis jusqu'à la fin, et ça dure quoi, 2 semaines. Et à la fin, on mesure ce qu'on a délivré comme output, tu vois. Mais c'est très structuré, et ça perd énormément de temps. Franchement, moi, j'aime pas.
Ça, c'est ton avis.
Ouais. Pas... Ouais. Non, après, lui, je le comprends parce que de l'extérieur, il veut avoir une visibilité de ce qui est en train d'être fait. Donc, ce que j'essaie de lui faire comprendre à la longue, c'est que, écoute, on ne peut pas micro-manage des gens, tu vois. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre la hauteur. C'est difficile parce que tu veux que ce soit d'une certaine façon et souvent, ça peut faire mal de prendre la hauteur.
Surtout, tu peux te retrouver... Enfin, lui, sa crainte, c'est qu'au bout de 3 mois, et si on n'est pas satisfait...
Exactement. Et ça arrive souvent. Mais ce qu'il faut se comprendre, c'est que c'est des moments d'apprentissage. Et il n'y a que comme ça que tu peux arriver... Il faut empower the base. Tu vois? Il faut empower les gens du bas. Tu vois? Il faut leur donner les outils. Il faut les laisser faire leurs erreurs. Ça va énerver, mais bon, c'est pas grave. Ils font leurs erreurs et puis on progresse ensemble. Parce que la pire des situations dans laquelle tu puisses être, c'est d'avoir une sorte de... Encore une fois, excusez-moi pour l'anglicisme, mais de bottleneck. À de top. Ça veut dire quoi? Quand toi, tu n'es pas là,
rien n'avance.
L'entreprise ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Et on est passé par là, on a vu ça tellement de fois, tu vois. Et nous, notre rôle aujourd'hui, justement, c'est de transmettre ces choses-là par le bas. Donc, justement, on les laisse faire comme ils veulent. Chacun gère. Il y a des squads qui vont faire des sprints, il y a des squads qui vont faire autre chose. C'est qu'est sûr, moi, à mon niveau, je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais, comment tu t'organises, quoi. Tu vois. Tu
gères ça. Régis, là-dessus, quand même, si tu n'atteins pas l'objectif.
Oui.
Il se passe quelque chose ou pas?
Bien
parce
sûr.
Que là, tu as dit, bon, c'est un moment d'apprentissage, etc. Mais moi, mon expérience montre qu'il faut que les gens sachent que pas atteindre l'objectif, c'est pas rien.
Déjà, déjà, il y a l'esprit qu'on a créé. C'est rare de voir des gens qui ne se donnent pas à
110%. C'est des compétiteurs.
Voilà, tu vois, c'est les gars, ils se sont dit, OK.
En fait, ils vont être encore plus déçus que nous s'ils arrivent
pas à 110%. Ça, c'est la meilleure culture.
Ils vont se dire, OK, les gars, on fait comment? On se met, tu vois, on se motive. Et celui qui triche, et moi, je vois des gens qui trichent, celui qui triche, il est démasqué tout de suite, en fait. Même pas par moi, naturellement par le squad. Et tu vas voir on va le faire sortir rapidement, il sera renvoyé. Il n'y a pas de place pour la tricherie. Tu vois. Et donc, ça rend mon travail beaucoup plus facile.
D'accord.
En général, quand on arrive à la fin du quarter, je sais que les gars, là, ils ont fourni un effort sincère pour arriver au truc. Et c'est rare qu'on n'atteigne pas les objectifs en général. Mais quand tu n'atteins pas, c'est un moment d'apprentissage aussi.
Et après, il y a un incentive, évidemment, un peu financier.
Si tu réussis.
D'équity.
Mais je pense que ça va au-delà même de l'aspect financier. Les gars, ils veulent savoir que, OK, j'ai travaillé pour augmenter le revenu de 20%, par exemple.
Ouais, je l'ai fait,
intéressant. Et c'est à moi, quoi. Et les gars ont ça, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est organisé.
Toi, de ton côté.
Produits tech et tout ça.
Toi, avec tes équipes.
Écoute, je sais qu'on est en train d'essayer de transférer un peu cette culture-là au reste de l'organisation. C'est plus facile avec les devs.
Moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de casser les silos.
Toi, tu es en charge de
toutes les choses ennuyantes, là. Parler aux investisseurs.
L'argent, c'est ennuyant.
Développement commercial. Les choses ennuyent, là.
Les trucs partenariat
avec les banques. Bon, j'ai pas envie de dire ça ennuye.
Après, on a une équipe très étoffée aujourd'hui. Oui, donc, c'est nos équipes qui gèrent ça.
Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sous tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mêmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en ouchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 €, c'est pas grand chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram.
Mon rôle, c'est plus de les diriger vers les objectifs, en tout cas, qu'on veut atteindre. Casser les silos un maximum, communiquer un maximum possible, parce que à chaque fois on pense que tout le monde est au même niveau d'information, mais très souvent c'est pas le cas. Et je dirais que vraiment la chose aujourd'hui qui est la plus importante, c'est d'identifier les 2-3 projets qui sont les plus critiques pour le business. Et de pousser derrière, tu vois, parce que en tant que founder, tu as vraiment d'autres outils. Qu'un manager ou quoi. Tu peux faire avancer contexte. Tout le monde. Quelqu'un va laisser son travail pour faire ce que tu lui dis, tu vois.
Il y a plein de choses. Souvent, tu n'as plus de contexte même que les autres.
Donc, quand pour toi, tu as identifié ça comme étant critique pour ton business, pendant les 3 mois, parce que nous, on a des cycles de 3 mois, je vais me dédier par exemple 20-30% du sud. Là, par exemple, c'est l'expansion au Sénégal. C'est mon focus. Et le reste de l'équipe, ils savent ce qu'ils ont à faire quand ils ont besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mais moi, il y a un truc que je répète toujours, c'est Et c'est un de mes mentors qui m'a expliqué ça. Les gens sont dans trois paniers. Il y a ceux à qui tu dis quoi faire et comment faire. Il y a ceux à qui tu dis quoi faire et il y a ceux qui te disent quoi faire.
Ah ouais,
okay. Ce que tu veux, c'est éliminer le premier panier. Oui, ceux à qui tu dis quoi faire et comment faire. Eux, tu les veux pas, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je pense que chez Diamond, on a vraiment que du panier 2, panier 3, en tout cas sous moi, directement. Et donc, j'ai juste à dire ce qu'il faut faire et les gens savent. Ouais.
Ça, c'est vraiment top. Tu as résumé un truc qui... c'est ce qu'on dit, on veut des gens qui nous apprennent des choses dans l'idéal. Mais du coup, toi, tes équipes ne sont pas en sous-équipe. Il n'y a pas de département.
C'est des départements, c'est assez classique comme
organisation. Finance, marketing, conformité, opération, logistique, tous ces trucs-là. Ouais.
D'accord. Ouais. Ok, super. Du coup, comment on rentre à Y Combinator?
Ouais, non, moi, je pense qu'il y a deux moments de leur histoire qui m'ont beaucoup fait rire, mais en tout cas, qui sont rire maintenant parce qu'ils ont survécu, mais qui auraient tué 10 000 autres startups. Mm-hmm. C'est quand vous avez commencé. Bon, déjà, vous n'avez pas dit, mais Jamo, ça vient d'où?
Le mot terme. Ça veut dire bonjour en baoulé.
Bonjour, merci. Je pense
mais à la base, quand on cherchait le nom, c'était plutôt la sonorité et la simplicité du nom. Donc, on ne voulait pas un nom de plus de 5 lettres. Une bonne sonorité.
Tu reconnais les experts.
Une bonne sonorité. Et puis, un nom de domaine qui est disponible. Un nom de domaine .com.
Pas de point .co.
Explique l'histoire. L'autre boîte qui nous a racheté, Redbus, eux, ils ont acheté leur nom de domaine.com $1 million. Parce qu'il appartenait à un fonds d'investissement qui ne voulait pas vendre. Il leur dit, bon, mettez $1 million sur la table, on vous vend.
Donc, toi, c'est à soigner. Toi, tu as dit
J'ai cherché les .com, etc. Et celui-là n'était pas très cher. Parce qu'en général, tous les noms de domaine de 4 à 5 lettres
sont très chers.
Sans privé.
Ah ouais.
Et, son prix et c'est, en fait c'est très dur après que tu l'aies
récupéré. Moi j'ai laissé anka.com, j'ai laissé.
L'idée, t'es venu la nounou qui t'a suggéré Jamo, il t'a dit pourquoi tu n'appelles pas ça Jamo.
Oui, et donc l'idée du nom, c'était une employée de maison qu'on avait.
Ah, qui vous a dit Jamo.
Et c'était, au début on avait un autre nom, mais il y avait Kaibou qui avait une sonorité à Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, bon, Kaibou, je pense que Jamo ça colle mieux.
Ouais.
Et l'avantage, c'est que même au Sénégal, ça veut dire la paix. Jam, ça veut dire la paix. Donc, ça colle bien. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, ça colle super bien.
Et la petite anecdote, c'est que qu'on a vu que le point com, il était à $3 000.
Chier !
Tu vois. Mais
c'est pas cher. Hein,
et c'est, là, c'est rien comparé aux autres prix. Tu vois,
je sais, oui. Bon, après.
Mais on s'est dit, en fait, si l'article de TechCrunch sort avant qu'on l'achète,
c'est ça. Le gars, il va. Donc, on a contacté le gars avec une adresse mail privée. Pour ne pas qu'ils sachent qu'on a Jamo et qu'ils regardent et tout. Et au final, il nous a vendu à ce prix-là.
Attends, vous avez acheté, parce que vous avez acheté le nom de domaine avant.
Bien plus tard, au début, on a fait la première levée.
On a fait la première levée. Donc,
au début, tu ne vas pas mettre $3 000 sur un nom de domaine. Non,
c'est ce que je voulais dire. Merci. Parce que regarde, les gens auraient commencé par acheter le nom de domaine, les gars.
On a acheté le point CI, il m'a coûté 10 000.
CFA.
CFA.
Merci.
Là, on est dans des banques.
Voilà. Tu vois, les gens.
Point.io, il nous a coûté quoi? $79. On l'a sécurisé le point net.
Mais en fait, on savait que le point com coûtait tant.
On avait la
blague. Tu vois,
on attendait d'avoir l'argent pour l'acheter.
Maintenant.
Tu vois, rien que ça. Je t'avais dit, quand j'ai dit que leur nom est intéressant. La plupart des gens que je connais qui lancent une boîte, ils claquent toute leur thune dans ça d'abord.
Non.
Dans acheter l'IP, dans créer la boîte, dans acheter le nom de domaine.
Il y avait deux stratégies. On a sécurisé le point CI. On s'est dit, si on n'a pas le point com, on va aller dans chaque pays, on va sécuriser le point
.cn, point .bn.
Donc ça, on avait déjà commencé ça. Maintenant, quand on a eu le Y Combinator et qu'on s'apprêtait à faire l'article, on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse l'offre au gars à $3 000 parce que dès qu'il va Google ça sur TechCrunch,
c'est foutu.
Il va monter ça à $50 000, $100 000. Donc quand il a fait l'offre, il a accepté, on a lock le contrat. C'est là que l'article est sorti. Tu vois. Et donc, on a payé. En plus, les $3 000, on a payé sur un an.
Ouais,
vous avez signé ça. Mais les gars, vous
avez signé. Allez, allez,
allez. Tirez les $3 000.
Tu sais, jusqu'à maintenant, on est comme ça.
Jusqu'à la mort, on lâche rien. C'est ça, on tire seulement. Ça, c'est la première truc. La deuxième chose qui, moi, m'a intéressé, c'est quand je vous ai rencontré, je crois, c'était l'époque où vous aviez le fameux sujet qui, alors, quand tu te lances, parce que beaucoup de gens veulent savoir comment vous êtes lancé. Et moi, je pense que le moment de votre lancement qui a marqué tout le monde, c'est votre fameuse liste d'attente.
La liste d'attente qui marche super bien, même à Dakar.
Même au Sénégal, ça marche. Mais ce qui est curieux, de ce que j'ai bien compris, c'est que votre liste d'attente, c'était le fait de problèmes logistiques que vous avez eu.
Oui, oui.
Parce que les gens ne savent pas ça. Et ça, j'aimerais bien vous raconter.
C'est un coup marketing.
Mais oui, les gens disent c'est des.
Ah, parce que et les premières photos, c'était des fakes.
Exactement.
Ça, on l'a jamais dit.
Racontez ça aux gens. Pardon, racontez aux
gens. En gros, déjà, c'était quoi? En 2020? C'est ça, en
2020.
Ouais. Donc, on sort du Covid, les gars.
On sort du Covid, on s'est débrouillé, on a sué, on a eu les intégrations des opérateurs, c'est prêt et tout, tu vois.
Tout est prêt, l'appli est prête.
L'appli est prête. On se posait aux investisseurs, bon, on a eu quelques flops, mais quand même, ça a marché, tu vois.
Oui, donc les gens vous ont dit non au début.
Non. En fait, tout était prêt. Enfin, on avait déjà dépassé tout ça, en fait. Tout
non, au début, c'était Friends and Family.
Ah oui, vous avez fait un Friends and Family au départ de 500, c'est ça,
De 300.
De 300 cas.
C'est ça, ouais.
Donc ça, déjà, pour les gens qui veulent savoir, faut déjà être un peu chaud, tu vois. Mais allez-y.
et donc, on veut lancer. Mm-hmm. Et à cause de Covid, les cartes sont pas prêtes. On nous dit non, les cartes vont arriver en novembre. On est en quoi? On est en juin.
Pendant l'été,
on veut lancer, on est prêt et tout ça, tu vois.
Mais les cartes sont pas là.
Les cartes sont pas là.
Donc tu veux lancer une application avec une carte, mais tes cartes sont pas là. Les trois quarts des gens à ce moment-là auraient.
Et on n'avait pas la carte virtuelle, donc on pouvait pas lancer.
Il n'y avait que des cartes physiques, tu vois.
Les trois quarts des gens à ce moment-là auraient juste dit j'attends.
Ouais, et on crée une campagne qui s'appelle, le nom du projet c'était Get Out of the Building. Mmh. Tu vois, non, il fallait qu'on sorte. Tu vois, non.
Parce que vous avez quelque chose.
Il a une bonne mémoire.
Ce détail, là, c'est vrai. Et tu vois, et comment on fait? On dit, OK, on va mettre la proposition de valeur. Mmh. On va leur montrer la proposition de valeur. Mmh. On va leur dire ce qu'on va donner sans leur donner. Mmh. Tu vois. Mmh. Et il a l'idée du referral. Je pense que c'est de ton ancienne boîte, je pense. Ouais. Il dit, en fait, les gars, en fait, il y a un truc psychologique, c'est que quand tu ne donnes pas quelque chose à quelqu'un, la personne veut cette chose-là, en fait, tu vois. Mmh. Donc, faisons ça. On montre ce qu'on va donner. Mmh. On leur dit, patientez et mettez-vous en rang.
Comme une nouvelle boîte de nuit qui vient d'ouvrir. Tout le monde veut rentrer. Tout le monde
comme
veut
le nouveau iPhone.
Ils ont mis des rangs aux gens, des numéros d'attente.
Ah oui.
En mode dans le rang. C'est pas juste, parce que beaucoup de gens font des emails. Oui. Tu sais, juste, tu laisses ton email et
justement,
c'est ouvert.
Une liste d'attente normale, c'est quoi? C'est un champ. Tu mets ton mail et puis c'est fini.
C'est fini.
On a développé un produit des listes d'attente. Et c'était intégré dans l'application, tu vois. Mm-hmm. Tu arrives, tu te mets en rang, tu as ton numéro, ton rang, et surtout, tu peux bypasser les autres.
En tu peux accélérer ton rang.
En partageant.
En partageant.
Ouais. Tu vois.
Ah ouais.
Tu vois un peu.
Et ça, même tous les gens de Y Combinator, c'est-à-dire les autres founders, ils demandaient à avoir des calls avec nous, pour comprendre comment on avait fait.
C'est ce truc-là que j'ai dit, non, c'était incroyable.
Ah ouais,
incroyable.
Tu vois. Parce qu'on a eu 40 000 inscriptions alors qu'on n'a rien dépensé.
On n'a rien fait. On a zéro dépensé, 40 000 inscriptions. En marketing. Et ça doit être intégré dans ton produit. Il faut que ça marche flawlessly. Je reçois le SMS. Bon, ça peut être un mail, mais ici, c'est le SMS. Mm-hmm. Je clique sur le lien, ça ouvre l'application. Le login est smooth, tu vois. Tout doit être smooth. Mm-hmm. Même, j'arrive sur ton site, j'ai même mon numéro, je dois recevoir le SMS. Tout doit être smooth. Tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que ça a pris du temps pour développer, mais c'est comme ça qu'on
Et là, même au Sénégal, on a amélioré encore plus.
Ah bon?
Donc, c'est devenu encore plus viral. Ça, parce qu'on a intégré un pass où tu peux, quelqu'un qui est déjà client, qui est déjà client au Sénégal, reçoit un pass au bout d'un certain nombre de transactions, qui peut partager avec quelqu'un.
Ses amis.
Dans sa qui va choisir à qui il va donner ce pass
de l'attraction.
Donc tu vas voir si tu sais par exemple, tu vas voir les gens disent ah les gars, j'ai un pass Jamo, c'est comment, et tout le monde groupe sur le poste.
C'est pour ça que tu dis je passe sous ton Twitter là. Maintenant Régis il balance ça comme des candy au peuple.
Moi j'ai dit
ah tu veux un pass. Allez, qui veut un petit
pass? Les gars, c'est comme les gars, Joe.
Mais allez, suivre Régis.
Mais c'est pas moi seul. Justement, l'idée c'est de transférer ce pouvoir là aux utilisateurs, et plus il fait les transactions, et plus il a ce pouvoir là. Il est un membre du club. C'est comme si je suis dans une boîte, je suis un habitué de la boîte.
Tu es un ambassadeur.
Et puis je sors, et puis tu peux rentrer.
Toi, tu es mon gars. Bon,
ouais, exactement.
Mais ouais, je me souviens que j'avais été exposé à cette stratégie à l'époque par Uber. Mmh. Ça m'avait vraiment marqué parce que tout parlait d'Uber. Mais moi, je n'avais pas l'application Uber. Jusqu'à ce que. Mais je me demandais pourquoi. Les amis, en fait, forçaient pour que je l'ai. Yeah. En fait.
Et encore,
moi, j'en ai pas besoin. Ouais. Et après, j'ai compris que quand je téléchargeais grâce à eux, ils gagnaient
une course gratuite.
On gagnait tous les deux une course gratuite.
Ce qui est tout, c'est que Uber, ça, c'est le truc classique d'ouverture en réel. ils ont fait ça sans argent.
Oui, c'est ouais. ça.
Ce qui est très, c'est... très, 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 très rare. Et comme tu as dit, même chez Y Combinator, je suis sûr que c'est rare.
Ouais, 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 ouais. Non, tous les founders, en tout cas dans notre groupe, ils ont fait des calls avec nous, pardon, montrez-nous comment vous avez fait.
Parce que c'est 40 000 en combien de temps vous avez fait ça?
Là au
même
Sénégal.
Même pas un mois.
Ouais, là au Sénégal, en deux semaines, c'était 50 000, tu vois.
Putain. Je sais pas si tu imagines, 50 000.
Personnes qui attendent.
Qui attendent pour
dire ça. Non, 65 000, pardon.
65
000, voilà. Tu vois, qui attendent et qui veulent ton produit.
Et donc, c'est ça dont j'appelle, ce que j'appelle aux gens, ça, c'est un vrai truc de startup. Ouais.
Et pour revenir au photo fake, donc, on arrive, on a cette liste d'attente qui n'arrête pas de grandir, elle devient extrêmement virale et tout, et les gens commencent à écrire sur nos réseaux, bon, vos cartes, ça arrive quand? Ça fait trop longtemps que
vous êtes des vous n'avez pas de cartes.
Donc là, on arrive, je pense, et chaque fois, le fabricant de cartes
ouais, dit, décalé. Elle arrive. En fait, les gars, ils les décalaient. Alors, parce que oui, il faut comprendre, c'est pas comme si on leur a dit, elles arriveront en novembre. Mmh. On leur a dit, ça arrive bientôt.
Exactement.
Ça arrive bientôt. Et beaucoup de gens auraient juste attendu.
Et donc là, on arrive à un point où ça y est, quoi. On est obligé de montrer quelque chose à des gens et tout. Donc, il y a quelqu'un dans, je pense, c'est Wilfried qui a eu l'idée. Ok, on va prendre des gens, on va fabriquer une fausse carte. Et on va dire que les gens ont commencé à recevoir leurs cartes. Et ces photos-là, tu les retrouves encore si tu remontes sur Facebook. Au tout début.
Les tout premiers à avoir eu la carte.
C'est là, c'est des fakes. C'est pas des vrais. Il y a Samuel qui est une designer. Il y a un gars, c'est un ami de, d'un du content manager.
Et c'est une vraie histoire de start-up.
Et moi-même, je postais à chaque fois.
Du jour au lendemain, on a passé les premiers à 500 du classement, à 500.
Si, voilà, diminuer le classement, en fait. Tu vois, alors, comme ça, diminue progressivement.
Pour que les gens
apprennent. Les gens, tu vois. Mais c'est ça, c'est le hustle. Tu es obligé de faire ça, en fait.
Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu décris, pour moi, c'est ça, quand on explique aux gens, n'attendez pas d'avoir le produit pour vous lancer. Tu sais que tu as les compétences, et c'est là où tu sais que tu as les compétences. Parce que beaucoup de gens seraient juste, un, en tant qu'entrepreneur, auraient abandonné, auraient attendu. Et deux, n'auraient pas su exécuter. Même l'attente peut être une occasion pour gagner.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que si vous aviez eu les cartes à temps, peut-être que l'histoire de Diamant est différente.
Oui.
Parce qu'en fait, au départ, tu aurais lancé comme tout le monde lance.
On aurait fait un référal, mais peut-être pas. Mais là, on a pris le temps. Je t'ai dit, on
oui, là, ça, avec c'est devenu vraiment une.
C'est un projet.
C'est un produit. On a dit, get out of the building. Qu'est-ce qu'on fait? Brainstorm. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là, tout le monde ensemble. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe qui y croit. Et là, chacun a contribué. Et puis, voilà, c'est le produit qui est sorti. Quoi. Et
c'est dingue parce que tous les gens qui me voient et qui disent, ouais, j'ai un projet d'appli, je dis, mais. Tu te rends compte que pour qu'une appli réussisse, en fait, ton challenge,
c'est, la distribution.
C'est d'être dans les top 10 des applis que les gens utilisent tous les jours. Quelles sont les applis que tu mets sur ton accueil? Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
C'est là.
Il n'y en a pas beaucoup. Donc, entrer dans ce top 10-là.
Ouais. Et même aujourd'hui, le référent, il marche. Quand tu regardes dans les stores, Jamo n'a jamais quitté le top 5 des applis de finance.
De Côte d'Ivoire.
De Côte d'Ivoire. Tout, depuis 4 ans, on est dans les top 5, top 3, tout ça, tu vois.
Et c'est pour ça qu'après, quand les gens viennent me voir en me disant « Ah, j'ai envie de lever comme Jamo », j'ai fait « Calmez-vous, les petits ». Même nous, là, on a fait ce que Jamo fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait ça, ils n'avaient même pas encore de produit. Dans leurs 6 premiers mois, ils étaient déjà 40 000. Pour donner un ordre d'idée aux gens, pour que je pense que pour que AfriCrea, pour qu'on ait les 40 000, c'était au bout de notre deuxième année. Enfin, il faut que les gens comprennent. Non, mais en fait, c'est pour ça que c'est pas anodin. C'est ça que, genre, quand je dis mettez du respect sur leur nom, c'est mettez du respect. Parce que les gens sont là, ils croient que c'est facile, mais c'est ça les vraies compétences. Qu'en fait, quand un entrepreneur, et je vous garantis, est-ce que c'était un peu lié là, on passe au deuxième point, est-ce que vous aviez la deadline de YC aussi en tête? Parce que Y Combinator, pour ceux qui ne connaissent pas,
ils voulaient voir l'attraction.
Voilà. Parce que Y Combinator, c'est le plus gros accélérateur au monde. Qui a, pour le coup, contrairement aux accélérateurs qui se traînent dans la région, quand tu es pris là-bas, non seulement ils te t'aident vraiment à avoir une culture, et ça, on pourra en parler plus, mais en plus, ils te donnent de l'argent. Et ben, pour le coup, après leur démo day, c'est là où tu peux lever des vrais trucs.
Tu as plus de chances d'avoir des investisseurs.
Des investisseurs. Ouais. Donc ça, pour y rentrer, comme je dis souvent aux gens, pour donner du contexte, nous, on a essayé, on s'est fait recaler au dernier niveau de l'interview parce qu'on n'avait pas le CTO avec nous ce jour-là. Notamment.
Donc, c'est lundi ou tu l'as su après?
Parce que tu me dis après,
que tu l'as découvert.
Ouais, j'ai découvert après.
Il m'a dit, ça fait pas des choses qu'on dit pas, mais il faut le savoir.
Je l'ai su après parce que moi, on arrivait jusqu'au dernier truc, on avait de l'attraction. C'était l'époque où on faisait aussi, on a fait x10 en 6 mois. Mais bon, calmons-nous, c'était juste la transaction, c'était pas des users. Et du coup, on a fait l'entretien avec Michael. C'est lui-même qui a fait l'entretien avec Kader et moi. Il a dit, ah, mais je comprends pas, votre truc est bien. Et là, d'un coup, il me dit, mais lequel entre vous est le CTO? Et là, on dit, ah, le CTO n'est pas là aujourd'hui, non, il sera là.
Ils sont très à fond sur les trucs des techs.
Il m'a regardé, il a dit, ok, bon. Il m'a dit, ok, expliquez-moi pourquoi vous êtes différent de Etsy. On lui donne la réponse classique. Il dit, ok, bon, on vous fera signe. Ils ont dit non. Donc ça m'a démotivé comme jamais. Et un an après, on a repostulé, je lui ai réécrit la même adresse. Et il m'a répondu en me disant, mais en fait, votre problème à vous, c'est la tech. Votre CTO n'est pas assez présent, n'est pas assez gros, parce qu'à l'époque, Luc était parti.
D'accord.
Et il est revenu après. Donc tu vois, c'est les gens, tout de suite là, ils ne le disent pas. Mais un truc, moi, qui m'intéresse, c'est du coup, racontez-nous votre course à YC. Parce que je pense que c'est un moment qui est clé dans votre histoire aussi.
Ouais, bon, vas-y, raconte.
Apparemment, c'était toi, ça mettait en ligne.
Non, sinon, moi, je peux raconter. En fait, je pense à l'époque, déjà, après le Friends and Family,
oui.
On s'est rendu compte en fait que ça allait demander beaucoup d'argent, tu vois.
Quel était le plus gros coup pour vous? Pas l'équipe, c'est ça?
Ne serait-ce que fonctionner. Parce que quand toi, tu recharges 5000 francs sur ton compte Jumbo, c'est 5000 francs qui sont séquestrés dans un compte bancaire.
Ah! Donc, tu es obligé de préfinancer.
Donc, Jumbo, tu peux préfinancer ces 5000 francs, les bloquer sur un compte bancaire. Comme ça, toi, tu as accès à ça sur ta carte. Et c'est comme ça que la banque centrale garantit un peu.
Vous avez du cash, hein?
Faut que tu comprennes.
Ça, et au début, tu vas acheter, par exemple, le premier stock qu'on a acheté, c'était 20 000 cartes physiques. Tu vas acheter 20 000 cartes.
Ça coûte cher. Moi, j'en ai acheté 5 000, j'ai transpiré.
Voilà. Tu veux acheter parce que, en fait, plus le volume augmente, plus moins c'est cher, etc. Tu veux pas chaque fois commander et tout. Tu as ça. Tu es obligé d'embaucher tout de suite des équipes finance parce que tu as un gros risque, conformité,
service client
et tout. Non, c'est une activité qui est très cash
intensive. Ça demande beaucoup d'argent. Tu vois. Et donc, rapidement, lui, il me dit, bon, moi, j'étais loin et tout ça. Et moi, je faisais mes MVP et tout ça. Et il me dit, non, je pense qu'on doit lever, ça va demander beaucoup d'argent et tout ça. Moi, je m'en fous et tout ça. Moi, je ne connais pas. Et je pense que tu as commencé à lever.
Donc là, j'ai commencé à parler à plusieurs fonds, des fonds qu'on m'avait introduits. Il y a des fonds avec qui j'avais déjà discuté même avant de lancer la boîte pour commencer à construire des relations. Ça, c'est hyper important.
Voilà.
C'est toujours de construire les relations parce que le moment de construire la conviction, tu ne peux pas le faire sur 15 jours, un mois.
C'est pas overnight, tu lèves.
Il faut que tu le fasses sur une durée d'un an, tu prépares en fait le terrain.
Très important. La conviction n'est pas sur l'idée, elle est sur toi.
Oui.
Non, les gens confondent. Quand tu dis conviction, les gens pensent qu'il faut convaincre que ton idée est bonne.
Non.
Les investisseurs battent les steaks de tes idées. Il y a personne que tu vas venir voir, un investisseur qui est professionnel, qui n'a pas probablement déjà entendu ce que tu dis. Par contre, la conviction dont tu parles, c'est qu'il faut qu'il se dise, ce gars-là, c'est le gars qui va pouvoir faire ça.
Et ce qu'il faisait, je pense qu'il était bien, c'est qu'il est tenu au courant de nos avancées.
Exactement.
Donc, chaque fois qu'on a quelque chose qu'on a débloqué, il fait un petit mail, voici ce qu'on a fait.
Et il ne faut pas avoir honte d'être ridicule. Parce que je remonte un peu au mail que j'envoyais. Tu sais, tu remontes un peu, tu regardes tout ça. Et là, je me rends compte que c'était vraiment ridicule. Quoi. Je partageais des infos.
Il n'y avait pas grand-chose à dire.
Je vantais certains trucs alors qu'on ne les avait pas. Enfin, tu as plein de trucs, tu vois. Mais il ne faut pas avoir honte d'être ridicule parce que tout le monde, tous ceux qui sont en train de commencer des boîtes sont au même stade que toi.
Bien sûr.
Et vont dire des choses même plus ridicules que toi. Tu vois, les gens même de YC, en fait, ce qu'ils te disent souvent, c'est que tout le monde foire son interview. Et en fait… Parce que toi, tu as l'impression que tu l'as foiré. Sauf que tout le monde foire son interview. Donc, c'est qui a le moins foiré l'interview qui passe, en fait, il y a d'autres facteurs, je pense, qu'ils ont et tout. Mais il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Il faut parler à un maximum d'investisseurs, de gens, les tenir au courant. Et petit à petit, et eux, en fait, c'est des gens qui reçoivent ça de tout le monde et qui gardent cette info pour eux.
Oui.
Tu vois.
Les investisseurs,
ils voient, tout ce qui est en train de se passer sur le marché. OK, il y a cette boîte qui est intéressante. Lui, c'est vrai qu'il dit des trucs un peu plus sensés que l'autre et tout. Et donc là, il y a un des investisseurs avec qui on parlait qui était vraiment chaud de l'idée Notre Âme, nous dit, vous devriez postuler à Y Combinator.
Ah, donc c'est l'invest qui te le dit.
C'est l'invest qui nous dit.
Toi, tu connaissais pas YC déjà
et moi, je connaissais, mais bon.
Moi, j'y croyais pas. Parce que moi, j'avais postulé à YC aussi. Mais en 2010.
Ah, tout
à
l'heure.
Avec les Niger.
Ah, non, j'avais aux États-Unis, j'étais start-upper, on griffe.
J'ai passé cette étape. Donc,
il y avait une boîte aussi avant le Niger.
Non, oui, bon, ça, c'était un petit projet. J'avais développé.
Petit projet, mais il a tenté YC.
J'avais développé un truc qui ressemble à Zapier. Tu connais Zapier?
Oui.
Qui collectait les data et tout, tu vois. Ça marchait super bien. Mais je suis allé à un event de YC, personne n'a voulu me prendre comme co-founder et tout. Bon. Bref, ça m'a saoulé, j'ai postulé, j'ai pas été retenu. Donc, quand lui me dit, dans ma tête, ça va être une distraction en fait, tu vois. Ça va être une distraction. Donc, moi, j'y croyais pas.
Et en fait, la clé, ce qui a tout changé pour nous, c'était le Covid. Pourquoi? Parce que, en fait, au début, tu devais aller à San Francisco.
Oui.
Tu devais aller 3 mois à San Francisco. C'est vrai que pour la plupart des founders, c'est genre. c'est le top, quoi. Je veux aller à San Francisco et apprendre avec des gens et tout. Nous, c'était l'inverse. Ouais. Nous, c'était, on veut surtout pas aller à San Francisco parce que
on s'apprête à lancer.
On s'apprête à lancer. Donc, ça va casser le momentum. Ouais. Tu vois. Donc, on s'est dit, non, on va pas postuler. Et donc, il y a eu le Covid. Et là, Y Combinator annonce leur premier batch, c'était
en ligne,
le deuxième en remote. Là, on s'est dit, OK, pourquoi pas? On regarde, la deadline est passée.
Ouais. Ah là là, sérieux.
On regarde, la deadline est passée. Je dis, OK, bon, la deadline est passée et tout. Sauf que, en fait, tu peux postuler même après la deadline.
Oui, oui,
sauf
oui.
qu'il faut vraiment que tu aies un dossier hyper solide pour passer, quoi, tu vois. Donc là, je commence à remplir la forme et tout. Je renvoie au premier investisseur avec qui on discutait, en lui disant, parce que lui, il nous a dit, il va nous aider à rentrer. Tout
ça. Il
connaît des gens, il va recommander et tout. Il nous dit, et là, il nous envoie une term sheet. Il dit, oui, écoute, mes partenaires me disent qu'on vous êtes trop, tout ça. On aimerait s'assurer quand même que…
On est dans le deal.
On est dans le deal. Et là, il nous propose des termes. Et il me dit, tu as jusqu'à lundi pour signer. Parce que vous avez déjà passé la deadline, moi ici, etc. Donc là, on leur dit, écoutez, merci les gars. Ouais, on n'a pas besoin de vous.
C'est
on
quoi ça, là?
on va postuler nous-mêmes. Ouais. Par contre, ce qu'il m'a dit.
J'ai pas compris pourquoi.
En fait, je pense qu'il voyait le potentiel.
En fait, une fois que tu rentres à Y Combinator, ta valuation explose.
Ah, donc. Et il s'est rendu compte qu'on allait pouvoir rentrer là-bas. Et il voulait, genre, rentrer.
Sécuriser sa valeur la plus basse.
Tu vois.
Et tu vois des termes avant qu'on rentre.
Mais c'est significatif. Tu voulais pas qu'il soit investisseur?
Si je voulais, mais pas forcément au terme que lui voulait.
Et surtout, moi, je pense que c'est la méthode et tout, tu vois.
C'est la méthode. Exactement. Le fait. D'avoir mis la pression jusqu'à lundi.
Mais au moins, le fait qu'il envoie le truc, ça t'a rassuré sur le fait que mon dossier est bon. Vu comment il a réagi.
Je ne l'ai pas vu vraiment comme ça. Par contre, ce que j'ai capté comme information, c'est que ce qui aide beaucoup, c'est d'être recommandé.
Oui, exactement.
Tu vois, il faut être recommandé. Donc là, je commence à chercher dans mon réseau et je vois, il y a 5 personnes que je connais très bien qui ont fait YC. Je les connais par ma vie de start-up d'avant, quoi. Enfin, Pérou, tu vois, il y avait 2 founders au Pérou qui étaient rentrés à YC Combinator.
Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui prennent des notes quand ils écoutent le podcast. Se faire recommander, c'est vraiment.
Je pense que
c'est
ultra.
Plus ultra.
Ouais. Dans sans ça, tu énormément de choses.
Tu peux dans tout. Surtout quand tu viens dans nos zones, là, en fait. Mais oui, encore plus.
Ouais. C'est pour ça que les Nigérians, ils arrivent à rentrer tous. Parce que
même pour lever des fonds sans YC, les investisseurs ne vont pas regarder ton dossier si tu n'es pas recommandé par quelqu'un.
Oui, il faut une warm intro.
Juste. Voilà.
Excuse-moi.
Et donc, là, je trouve 5 personnes. Une personne au Mexique, 2 personnes en Inde.
T'es chaud, hein.
Je les contacte. Il y a certains qui me disent OK, sans problème. Et d'autres qui me disent, attends, on va faire un call, je veux comprendre ce que tu veux faire.
Oui, parce que le problème, c'est que quand ils te recommandent,
ils mettent en fait leur nom, tu vois. Même moi, quand je recommande aujourd'hui des gens sur YC, je leur demande un minimum de questions, même si je ne fais pas trop les difficiles. Mais OK, dis-moi ce que tu veux faire et tout.
Oui, l'attraction, on est où?
Un premier filtre, quoi, tu vois. Tu es obligé quand même, parce que c'est une communauté. Et donc là, on reçoit le mail 15-20 jours après, vous êtes pris pour l'interview. Alors qu'on était après la deadline.
Mais ça a dû commencer à dire, mais c'est quoi ce bordel là?
Et ce gars-là, je me rappelle, ce gars-là, il avait dit à quelqu'un d'autre que je connais, mais je comprends pas, il y a une autre boîte de mon portefeuille qui a postulé, ils ont toujours pas reçu le mail, alors qu'ils ont un dossier beaucoup plus solide. On pensait qu'ils allaient rentrer.
Le gars qui vous avait donné la deadline.
Et son autre boîte n'est pas rentrée, on est rentré.
mais les 15 jours là, on n'a jamais regardé autant de vidéos YouTube.
Toutes les vidéos d'entretien.
Regarde, il m'envoie le lien. Tchou, fais l'entrée, regarde ça, fais le practice, entraîne-toi. Moi, dans mon cas,
c'est beaucoup d'entraînement.
C'est énormément d'entraînement.
Donc, on a eu des gens qui nous ont fait des mock-up interviews, c'est-à-dire des interviews tests où ils arrivent. Et en fait, tu te sens, tu crois que tu es vraiment préparé. Et on est arrivé. Et vraiment, on a foiré. Mais quand je dis foiré,
c'est 10 minutes.
Pour le contexte des gens, vous aviez déjà votre liste d'attente à 40 000 personnes.
On avait une
liste d'attente.
C'est un sacré argument, ça.
Exactement. Mais c'est ce qui, je pense, nous a fait rentrer à la première interview.
Non, parce qu'on n'avait pas encore, on n'avait pas distribué de cartes. Et ils voulaient qu'on distribue les premières cartes.
Justement, mais la liste d'attente était là.
Oui, ça nous a aidé.
La liste d'attente, c'est pour dire les 40 000 dont on parlait au début. Le jour où tu pointes tes 40 000 users, tu peux arriver un peu après la date, on va quand même te regarder.
Exactement. Donc, on arrive et là, on foire parce qu'ils nous posent des questions déjà.
Et c'était la nuit à 22h.
Oui, c'est vrai, c'est à 23h.
On a sommeil. Ton anglais, même, tu parles pas bien. Il n'y a pas une bonne connexion Internet.
Et puis des personnes là. Et des personnes qui comprennent rien à la fintech en Afrique, tu vois, et qui ont commencé à nous dire pourquoi vous faites pas du mobile money. Tu vois, pourquoi vous faites pas ça et tout. Et on avait du mal en fait à leur donner un autre prisme par rapport au truc et tout ça. Donc là, on termine le call, on s'est dit, bon, et c'est pas grave.
J'ai dit à ça un jour, ça c'est moi un jour. Allons dormir. Allons dormir, c'est bon.
Let's get back to work. Et là, tu attends le. Quand tu reçois un mail, c'est-à-dire que tu as été rejeté. Quand tu reçois l'appel, c'est-à-dire que tu as été pris. Donc là, toute la nuit, je dors pas. Je regarde mon téléphone chaque 30 minutes.
Moi, c'est bon. Moi, il dormait. Moi, c'était bon, Joe.
Le police est déjà terminé.
Parce qu'une fois qu'on était dedans, ça y est, quoi, on était dedans, tu vois. On voulait vraiment y entrer.
De choses.
Et il nous appelle. Pardon, pas il nous appelle, il nous envoie un mail. Donc là, j'ouvre le mail. Je dis, c'est bon, c'est mort. Et dans le mail, ils nous disent, OK, on est prêt à vous reparler dans un mois. Parce que nous, on leur a dit qu'on est sur le point de lancer les cartes. On est prêt à vous reparler dans un mois pour voir comment s'est passé le lancement, etc. Et tout. Mais pour le moment, c'est un an. Tu vois,
vous allez galérer.
Donc là, encore un mois, on s'est dit avec tout le stress et tout. On finit le lendemain. On appelle toutes les personnes qu'on connaît. On venait de recevoir les cartes 2-3 jours après. Toutes les personnes qu'on connaît. Est-ce que tu veux pas des cartes, etc. Nos early investors qui avaient des sociétés.
Capsule, je partais vendre des cartes dans les entreprises.
On distribuait, on faisait
sur GoSport.
Toutes les personnes.
Je partais là-bas, je dis, les centres commerciaux, les employés, je leur explique, je pitch. Il y a encore les vidéos de ça, non, je pense. Je pitch, est-ce que tu veux pas, je fais le onboarding de 100 personnes, tu vois.
Et on arrive à faire 2500 cartes.
Ouais, en un mois.
Tu vois, en un mois. Donc là, on arrive au deuxième call. Et là, on est beaucoup plus confiant. On vient de faire 2500. Et là, ils nous disent, ouais, vous avez mis que vous étiez sur le point de lancer et tout. Où est-ce que ça en est? Oui, on a lancé. On a déjà 2500 cartes distribuées. Et là, vraiment, toute l'interview, c'était fini. Quoi. C'était bon. Ouais. C'était gagné. Parce que les gars, ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est des gens qui exécutent.
Exactement.
Tu vois, c'est vraiment ça pour eux, la clé. C'est des founders qui exécutent, ils investissent que dans les founders, tu vois. C'est comme ça. Et là, après l'interview, on reçoit un coup de fil. C'est bon, vous êtes pris. Et truc.
Votre vie a changé à ce moment-là. C'était quelle année, ça? C'était 2010.
2021.
Fin 2020.
Fin 2020.
C'était fin 2020. Février. Oui, mais le batch, c'était oui.
C'était décembre, novembre 2020.
Moi, je me souviens, j'étais déjà à Babi. Nous, on était dans la
galère. Oui, c'est 2020.
Mais moi, j'étais choqué par ces gars-là. J'ai dit, mais ces gars sont des brutes épaisses. C'est pas possible. On fait pas. Au lieu d'être à 40 000 personnes, et lorsque le produit sort, tu rentres en YC. Mais c'est quoi ces gars-là? Je crois que pour t'expliquer, c'est genre, tu fais coup sur coup les trucs les plus improbables qui existent en startup.
Non, mais là, on a l'envers du décor. Moi, j'ai une question sur l'acquisition. Parce que je sais que. Il y a un terme à la mode aussi chez start-upers, tout ce qui est growth. Sans dévoiler vos secrets de guerre, sur quoi vous vous appuyez? Quelles sont vos différentes stratégies pour faire de l'acquisition d'utilisateurs?
De clients.
Qu'est-ce qu'on peut dire?
Sachant que l'acquisition ne suffit pas.
Écoute, si tu parles de growth, le plus gros growth hack qu'on ait fait, c'est la liste d'attente. Donc ça nous a mis.
Sur un lancement, du coup.
Ouais, sur un lancement, ça nous a mis vraiment dans une position. Dans
tu n'as plus qu'à travailler une liste, tu as déjà une liste à travailler.
Et on a déjà une histoire, quoi, tu vois. Les gars, hyper innovants, y a la liste d'attente. En fait, tout est fait différemment chez eux, tu vois. Donc, il y a ce positionnement-là et ça fonctionne hyper bien avec tes premiers clients, les early adopters.
Mais après, ça, c'est
parce que ceux-là, ils veulent le produit que personne ne peut avoir. Ils veulent être les premiers à tester et tout. Donc, c'était le départ. Et après, ce qui a pris le relais, c'est petit à petit, en fait, c'était le bouche à oreille, expérience client. Après, on a eu un problème, c'est que la plateforme scalait pas, donc l'expérience client commençait à baisser.
C'est là où c'est enfermé pendant 3 mois pour faire
ça. Voilà, après, ça a repris, mais c'est dur à reconstruire, tu vois, ces trucs-là, les bouche à oreille et tout. Mais moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est en fait ce qu'on appelle product-led growth. C'est-à-dire que tout soit drivé par le produit. Si ton produit se vend lui-même, si par exemple tu as un restaurant et que tu as une recette, tout le monde veut venir manger chez toi. Peu importe le marketing que tu vas faire, la devanture de ton restaurant, tout ça, tout le monde veut venir manger, tu vois, ton poisson ou ta recette secrète en fait. Et c'est ça que nous, on fait.
Ouais.
C'est vrai que les autres outils, c'est des canaux supplémentaires qui nous aident, mais le plus important, c'est le produit.
C'est un peu, ouais, ce que vous disiez, le truc qui faisait 10 secondes et vous le réduisez à une demi-seconde, ça,
exactement,
ça change tout. Ouais.
Mais regarde là, leur growth, j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent, Jarmo vous permet maintenant de recevoir votre salaire sur un IBAN. Et ça, c'est un truc, un truc que les gens ont demandé et qui a l'air simple comme ça, mais qui leur a demandé des mois et des mois de boulot. Et quand ça sort, en fait, c'est pas le nombre de gens à qui tu le répètes qui compte, c'est que ça marche.
C'est vrai. Ouais.
Et c'est ce que les gens comprennent pas souvent dans les startups, c'est que la com ne vient qu'après le produit. Tu peux pas, en fait, tu peux faker un petit peu au début, comme il dit, mais à un moment, il faut que ton produit délivre ce que tu promets.
Il y a que ça. Enfin, c'est le principal.
C'est le principal.
Mais l'IBAN, de ce que tu m'avais confié, je pense que c'était dans la vision de départ.
Depuis le début.
Depuis le début. Parce que les gens voient ça, mais ouais, mais du coup, ouais.
Sauf que personne ne croyait que c'était possible.
Oui,
mais d'un point de vue réglementation, on se demande.
Réglementation, du coup, c'est le quoi partenaire.
Ils ont les mêmes droits qu'une banque ou.
Tu sais.
Ouais. En fait, c'est des sous IBAN virtuels. En fait, tu n'as pas un compte bancaire. C'est pour ça que c'est bien indiqué que
c'est avec le partenaire.
C'est pas un compte bancaire.
En fait, c'est un numéro de routage.
Et en fait, c'est quelque chose qui est déjà fait depuis des années avec les microfinances. Tu vois, fait, les microfinances, elles n'ont pas d'IBAN aujourd'hui. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles font de la sous-compensation. Donc, elles vont voir des banques et tu reçois le salaire à la banque. Et après, la banque fait de la sous-compensation. Donc, nous, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est automatiser en fait tout ce process-là.
Tout simplement.
Dès que l'argent est reçu.
Comment ce gars parle en mode tout simplement. C'est genre des mois de boulot. Oh, c'est simple, les gars. Non, t'as raison. C'est pas compliqué. C'est juste très dur.
C'est trouver. En fait, une fois que tu as l'idée, que tu es convaincu, c'est trouver après le moyen. Et le moyen, aujourd'hui, on a prouvé avec les coffres, avec les IBAN, Jarmo Invest. Et ça devient aujourd'hui systématique qu'on arrive à trouver toujours des moyens pour sortir ces produits-là.
Et comment vous savez le prochain produit à sortir ? C'est vraiment lié aux questions des utilisateurs c'est votre vision ?
C'est plusieurs choses. Déjà, tu as le contexte qu'on a dans la tête, la vision et tout, tu vois. Et c'est alimenté par justement le feedback d'utilisateur. Donc, on va demander au client, est-ce que tu penses que si on te donne ça, c'est bien ? Donc, il y a énormément de surveys, vous les voyez
pas. Oui, même sur l'appli, il y a souvent des surveys.
Quand on a segmenté les clients, donc chacun d'entre vous a un segment. Et en fonction de ton segment, on va savoir un peu ce que tu veux, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans Jarmo, qu'est-ce qu'on doit améliorer à chaque fois. On regarde énormément de retours clients. Donc, moi, je t'ai dit, dans mes signés, j'ai les liens de recherche sur
les réseaux sociaux.
Tu vois.
C'est pour ça que les gens disent que Régis vient intervenir régulièrement. Ah, moi, tu dis le mot Jarmo, Régis apparaît.
Moi, je parle.
Sur les réseaux sociaux, tu mets Jarmo, écrivez Jarmo, vous allez voir.
Il n'y a pas de problème, je serai là. Tu vas m'insulter peut-être.
Voilà,
c'est pas grave.
Je serai là.
Je t'écoute, tu vois. Tu vois, donc il y a ça aussi, on appelle les clients, on parle aux clients, on fait des focus groups, on reçoit les clients au bureau, on leur parle, on regarde, on va sur le terrain, comment est-ce que ça se comporte et tout ça. Et surtout, on utilise le produit. On utilise vraiment le produit à fond pour voir, essayer de détecter ce qui ne va pas. Donc, c'est tout ça qui alimente un peu une sorte de feuille de route. Et on essaie de voir un peu size the opportunity. Donc, dans le sens où on va essayer de voir, est-ce que ceux sur qui on veut travailler, déjà, ça correspond à nos objectifs. Et est-ce qu'il y aura un bon retour sur investissement sur ceux sur qui on va travailler. Donc, en fonction de ça, on va décider de prendre, oui ou non, aller dessus. Et l'un des derniers critères, c'est est-ce que c'est faisable. Mais bon, ça, en général, on va trouver la solution qu'on ne va jamais s'arrêter. Il y a des choses qui n'étaient pas faisables, mais on s'est assis, on a réfléchi, puis on l'a fait.
J'adore comment il dit ça. Des choses ne sont pas faisables, mais on s'est assis.
On a
réfléchi, puis on l'a fait.
Il faut réfléchir. Il y a rien qui est possible.
Vous avez travaillé pendant des nuits acharnées, des jours acharnés.
Oui, mais tu sais, ça, c'est tout ça qui réfléchit.
Mais quand tu dis réfléchir, je vous assure, faites gaffe. Les gens vont écouter votre truc, ils vont se dire. En fait, il faut juste une bonne
idée. Non, réfléchir dans le sens, tu travailles.
Tu conçois.
Tu expérimentes, tu conçois, tu builds.
J'aime le
build. Il faut donner le crédit à l'équipe, tu vois. Ouais. C'est que tout ça, nous, c'est juste la vision. On aimerait faire ce produit. Tu vois, après, c'est l'équipe derrière qui met tout en œuvre.
Tu vois. Et ils sont super forts, tu vois. Il y a des choses qu'ils font, c'est incroyable, tu vois. Et c'est ce que tu disais, et nous, je pense, notre rôle en tant que founder, c'est de recruter des gens qui sont plus bons que toi.
Et c'est ça qui est le plus dur,
tu vois. Qui vont parfois même toucher plus que toi, beaucoup plus que toi, tu vois.
Et ça, c'est peut-être, moi, ça m'arrive en tout cas. Au début, tu as peur d'embaucher des gens qui sont plus intelligents que toi. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé à un moment donné de te dire, Enfin, ouais. Je sais pas, c'est une peur, mais tu as peur de ne pas correspondre à leurs attentes,
ouais.
Qu'ils arrivent dans une boîte
ouais, et qu'ils ne sont pas déçus de ce qui. Ouais, je vois ça.
Tu vois mm-hmm. Et en fait, il faut passer ce truc-là parce ouais. Qu'à un moment donné, tu as besoin. Et dès que tu fais rentrer le premier, après, c'est un effet boule de neige où en fait, tu as des gens de hyper smart qui sont là, qui sont trucs.
Mais mes meilleurs éléments, c'est des gens qui ont été recommandés par d'autres personnes dans l'équipe et ils sont venus parce que les autres étaient là. Quoi, tu vois. Ouais.
Donc, il faut des bons. C'est ça qui est très dur. Ça, c'est peut-être le truc que moi, je n'ai pas assez fait, j'avoue, au début. Il vaut mieux avoir passé longtemps à ne pas faire quelque chose ou à le faire solo et pas avoir la... Rien de pire que d'avoir quelqu'un qui fait le taf, mais pas mieux que toi.
Il ne faut pas avoir peur de retirer les gens qui ne sont pas bons.
Oui, aussi. Tu vois, il faut aussi. C'est très dur.
Ouais, mais il faut le faire.
Bah, c'est ce que Gavi dit tout le temps. C'est parce que quand tu vois des gens avec des bonnes équipes, tu vas et puis tu dis « Ah ouais, non, lui, il sait bien s'entourer. » Non, c'est
tu n'as fait, pas vu.
Lui... Mm-hmm. Il sait rapidement se séparer des gens qui ne correspondent pas. En fait, c'est ça le vrai truc. Parce que dire que tu sais mieux recruter quelqu'un...
Non.
Non.
Ouais.
Tu peux pas savoir.
Tous les gars, on leur demande ici à chaque fois... souvent, on demande aux gens, c'est quoi ton secret de recrutement ? Les gens disent, mon ami...
Il dit, t'as pas vu toutes les erreurs que j'ai
faites. C'est ça.
Ah non, on a fait les erreurs. C'est gros, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Ça
mais tu t'améliores du coup avec
oui,
le truc.
Oui, tu améliores. Là, on a quoi 200 personnes, presque 200 personnes. C'est...
Seigneur.
Et à chaque fois, c'est le même process, tu répètes. Et c'est ce que je dis. Aujourd'hui, là, je pense qu'on est vraiment bon à savoir déceler aujourd'hui qui peut correspondre le mieux au truc. Quoi. Donc, en général, on va arriver en dernière étape. On va faire le culture fit. Et on va donner le go, no go en fonction de ce qu'on va
recruter. Justement, moi, j'avais cette question depuis tout à l'heure sur la culture. C'est un gros sujet. Je sais que c'est encore abstrait pour beaucoup très de personnes, mais plus ton expérience d'entrepreneur avance, plus tu te rends compte à quel point c'est primordial. Ça arrivait vite, vous, dans vos discussions, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous avez commencé, puisque vous avez des expériences dans
je
des...
Je pense que ça s'est fait de façon organique. Et je pense déjà, on a à peu près les mêmes valeurs. Et je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne pouvait pas faire le compromis. L'honnêteté.
Nous allons parler spontanément, c'est
tu
vrai.
Vois, c'est trop important. Tu gères l'argent des gens, il y a zéro place pour la fraude. Moi, je ne supporte pas ça. Tu vois. Et comme j'ai dit, je fais confiance à personne. Je mets mes systèmes en place qui vont vérifier. Ils sont toujours le dernier rempart pour vérifier que voilà, tu vois, tout se passe bien. Et même l'honnêteté, c'est important. Ça rentre même dans l'honnêteté dans le travail, c'est-à-dire la sincérité dans l'effort au travail.
Exact.
Moi, je te vois, tu triches dans le travail. J'ai une croix sur toi en même temps. Dans tes jours sont comptés à Jamo.
Il faut que tu te donnes.
Tu vois, il faut que tu te donnes. Il faut que je te vois vraiment mouiller le maillot. Si je sens que tu es en train de tricher ou que tu es en train d'essayer de se faire passer pour le meilleur, alors que tu ne travailles pas, c'est fini, tu es blacklisté. Tu vas probablement partir dans les mois qui suivent.
Mais comment tu sais concrètement qu'un tricher si la personne délivre?
Non, justement, la personne délivre. La personne fait semblant de délivrer.
Et le gros point, c'est ça. C'est que l'effort ne suffit pas. Il parle du résultat. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que les founders, en général, ce que tu fais, on l'a fait aussi.
On l'a fait. Tu vois.
Donc, général, on a une idée quand même mon ami, ça là.
Et moi, souvent, même, quand tu as un problème, j'ai la solution. Mais je ne te dis pas. Pourquoi? Parce que je veux voir l'effort
que tu vas mettre.
Que tu vas faire. Et si tu dois faire 10 choses et que tu as fait 2, tu triches.
Tu veux que l'effort soit honnête.
Tu veux que l'effort soit honnête. Tu peux nous
et après, tu le en fait, il faut que tu le systémises aussi dans tes contrats, dans tout, tu vois.
C'est vraiment ça, le point important. C'est-à-dire qu'il faut communiquer que c'est comme ça. Parce que sinon,
Je parle parfois à d'autres entrepreneurs et par exemple, ils n'ont pas la connaissance que tu peux intégrer une clause de performance dans ton contrat.
On en parlait, tu vois.
Donc, nous, on a des clauses de performance où si pendant 2 cycles trimestriels, il n'y a pas de performance, ils rentrent dans un plan d'amélioration.
Un PIP comme moi. Mais en fait, j'ai le même truc, c'est ce que je disais à Caillou.
Non, toi, c'est au bout d'un trimestre.
Non, c'est
vraiment
dans
un plan. Non, au bout d'un trimestre, tu rentres dans un plan et au bout de 2 trimestres, tu es dehors.
Non, il faut laisser ça.
Oui, non, en fait, ce qu'il dit, non. C'est les mêmes choses que vous. C'est juste qu'on appelle ça l'alerte. Non, t'as une alerte. C'est juste, à chaque fois, nous, en fait, comme on
évalue tous les porteurs... Il faut appeler ça feedback, c'est mieux.
Ouais, voilà. Nous, on appelait ça alerte parce qu'on s'est rendu compte... Avant, on appelait ça watch, on a eu plein de noms. On a rendu compte que le mot alerte, c'est le seul truc qui crée que les gens s'alertent. Vraiment s'inquiéter.
Après, tu veux pas terroriser les gens.
Non, non, je ne veux pas terroriser, mais en fait, en général, comme disait Kaï, quand on commence dans une alerte.
Mais en même temps, on est dans des cycles hyper rapides.
Ouais, voilà.
On est dans des hyper growth.
Parce que deux cycles,
c'est énorme pour nous.
En fait, 6 mois, c'est ce que je dis souvent aux gens, ça paraît long dans beaucoup de boîtes.
Oui.
Enfin, chez nous, c'est pire qu'une année. Enfin, en 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, quand tu as une alerte un premier quarter, oui, comme disait Kaï, au deuxième quarter, c'est alerte, c'est PIP.
Non, mais tu accompagnes quand même, il y a un plan.
Oui, et une fois que tu es en alerte, en fait, les gens te suivent.
Là, si c'est quelqu'un qui est déjà dans la boîte et qui se retrouve comme ça, c'est qu'il y a un problème. Mais si tu parles d'un recrutement...
Là, tu le sais dès les premiers mois.
Voilà, oui.
30 premiers jours, ça.
Mais normalement, quelqu'un ne doit pas être dans la boîte et se retrouve à être en alerte, en fait. Bah, c'est qu'il y a un problème. Justement, donc il faut aller à la cause du problème. Quelle est la racine du problème, tu vois?
Non, en général, nous, la racine du problème, souvent, pour être très honnête, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous, surtout ces dernières années, on a beaucoup pivoté le modèle.
OK, voilà.
Et les rôles des gens. Oui, parfois,
c'est en fait, les rôles bougent. C'est-à-dire, quelqu'un pouvait être bon à un moment, et du coup, son rôle demande de nouvelles choses. Les gens disent « je peux ».
Oui, mais c'est justement ce que je veux dire. Et c'est que... Une grande partie de la responsabilité repose sur toi, le fan.
Oui, bien sûr, à quel point tu expliques aux gens.
Bien sûr. Quand tu donnes l'alerte aux gens, autant tu faut vraiment te remettre en question. Quoi. Est-ce que je suis un bon leader? Et nous, ça nous arrive souvent, on va dans tous les sens. À un moment, tu dis, bon, c'est vrai que je suis leader, les gars me suivent, mais en fait, je suis en train de partir partout. Ça épuise, même moi-même, ça va m'épuiser. En fait.
C'est clair.
Tu vois, donc, il y a cette remise en cause-là qu'il faut, vraiment.
Toujours faire. Nous, ce que je dis souvent aux gens, parce que je me souviens une fois, nos employés nous avaient demandé quand vraiment on a fini ce process et qu'on l'a fait au bout d'un an. Ils nous ont dit, mais vous, vos évals, c'est quoi? Je leur ai dit, mais vous pensez que nous, on le vit comment quand vous avez plein d'alertes? Enfin, c'est une alerte pour moi. Si dans mon équipe, je me retrouve à avoir dans une équipe la moitié de l'équipe qui a alerte,
c'est que toi,
j'ai un problème. En fait, je me dis, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que, comme il disait, c'est des gens qui ne l'avaient pas avant.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un problème.
Il y a un problème. Et même quand quelqu'un part, et je le répète, quand quelqu'un change, tu t'en veux.
Bien sûr.
Ouais. Parce que tu te dis, moi, le seul truc qui me fait permettre de vivre avec, c'est que je me dis, un, je préviens les gens avant. Deux, je fais l'effort, moi, d'aider quand je vois que ça ne va pas. Et la dernière chose, si je t'ai aidé, c'est qu'après, oui, tu as quand même une période de préavis. Ouais. On ne te sort pas et tu te retrouves dans la street au jour au lendemain.
Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il faut garder, tu vois, ces systèmes-là, c'est des systèmes anglo-saxons.
Oui.
Où, en fait, là-bas, tu lay off. C'est très facile de lay off et tout.
Oui, mais eux, ils ne font pas des préavis et tout comme nous. Sinon,
exactement. Et je pense que nous, en tout cas, on a le devoir, les startups d'Afrique francophone,
exactement,
de garder un peu cette humanité.
Très vrai.
Et puis, tout simplement, d'embaucher moins vite. Oui. En fait, c'est ça. C'est une équation. Si tu embauches trop vite, tu vas lay off. Et c'est comme ça que les Américains, les Anglo-Saxons fonctionnent.
Bien embauché, je pense.
Ouais. Voilà. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on embauche moins vite de gens. Ouais. Et comme ça, on a moins de gens à lay off.
À lay off après, d'ailleurs. C'est clair.
Et la dernière valeur, juste pour revenir là-dessus, qui est très importante, c'est le respect de l'autre. Tu vois. Voilà. Faut jamais frustrer l'autre. Faut jamais lui parler d'une certaine façon, quel que soit son rôle dans l'entreprise. Je pense que chacun contribue au développement de l'entreprise. Si cette personne n'est pas là, tu ne peux pas faire son travail, en fait. Tu ne peux pas tout faire, tu vois. Donc, de façon systématique, vraiment mettre le respect vraiment pour l'autre, c'est très important.
All right, mais je pense qu'on a... On a fait le tour là, on vient de battre un nouveau record, les gars, c'est bien, les gars.
Ça bref, c'est bien. Mais j'ai juste un dernier truc, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jamo? C'est-à-dire, quel est, enfin, on dit sky is the limit, mais c'est quoi la...
Le rêve.
Qu'est-ce
que les gens qui vous écoutent peuvent faire pour aider?
Non, le rêve déjà. Quel est leur rêve, quoi?
Ouais.
Parce que nous, comment on va les aider? Les gens qui écoutent,
ils peuvent aider.
Ils vont télécharger.
Non, je pense que pour nous, en tout cas, l'objectif, c'est d'impacter la vie des gens, d'améliorer leur vie. Leur vie financière, plus particulièrement. Et leur donner, c'est quelque chose que répète souvent Régis, que j'adore, value for money, valeur pour leur argent. Tu vois, c'est ça vraiment qui est important pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le service n'est pas 100% gratuit, comme on l'avait fait au départ.
Ça coûte. Mais, tout le coup que tu viens de dire que vous avez là, c'est normal que
ça
coûte.
En fait, ça coûte si tu veux fournir de la qualité. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne se dit jamais, on ne réfléchit jamais de comment ce produit-là, quel revenu va générer. toujours on fonctionne par rapport au client, quel problème ça va solutionner pour le client. Et après, en dernier, on regarde quelles sont les réalités économiques, est-ce que c'est vrai être profitable ou pas, tu vois.
Et impacté à quelle échelle alors de, c'est toute l'Afrique, c'est…
En tout cas, pour l'instant, notre focus, c'est sur l'UMOA, sur la région de l'UMOA.
C'est déjà pas mal.
Mais on n'écarte pas la possibilité d'aller dans d'autres régions en Afrique, que ce soit Afrique francophone ou ailleurs. Mais ouais, pour l'instant, en tout cas, il y a tellement à faire en région.
Ils ont du taf, t'inquiète pas.
Ouais.
Et il y a toute une partie de la population qui, n'est, qui est en dehors de l'inclusion numérique et de l'inclusion financière tout court. Vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, bon, ben, ceux-là, on ne peut pas les toucher. Et vous assumez le fait que vous visez essentiellement ceux qui ont des applis, parce qu'il y a aussi des gens qui vont dire, Jamo, c'est le truc des chocos. Voilà.
Comment est-ce que. Tu sais, vous... sur ça, je dis souvent, regarde en arrière, 3 ou 4 ou 5 ans en arrière, tu as énormément de gens qui n'utilisaient pas WhatsApp. Mais qui aujourd'hui, c'est devenu un réflexe carrément pour eux. On sous-estime la capacité des gens à s'adapter au numérique en Afrique. Et quand tu, je pense que quand tu fais tes trucs, ne regarde pas aujourd'hui, regarde ce qui sera demain en fait. Tu vois. Et donc, tous ces gens dont tu parles, c'est vrai qu'en tant que start-up aujourd'hui, on doit prioriser nos ressources et tu vois, nos déploiements. Mais c'est des gens qui vont naturellement arriver sur le produit, même si ce n'est pas aujourd'hui dans les médias. Ils vont naturellement arriver sur le produit. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les smartphones aujourd'hui? C'est parce qu'on a des contraintes techniques au niveau du respect de la réglementation. Tu dois prendre le selfie, tu dois prendre la photo de la pièce et tout, qui fait qu'on est obligé de cibler aujourd'hui une certaine partie de la population. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à toucher une autre partie ou bien qu'ils ne vont pas arriver sur le produit. Ça va se faire de façon naturelle. Et mieux, les gens qui sont au village, quand tu regardes comment ça se passe, ils utilisent certaines technologies parce que les gens qui sont en ville leur ont demandé d'utiliser, tu vois. Par exemple, télécharge WhatsApp, je peux t'appeler. Par exemple, télécharge telle application de Mobile Money, je vais t'envoyer de l'argent. Donc, ce sont ces gens-là à qui on a fait l'éducation aujourd'hui, qui vont tirer tous ces gens-là. Et ça va se faire de façon organique, tu vois. Moi, je ne vois pas ça comme un obstacle aujourd'hui, en fait. Plus comme une opportunité, je dirais.
All right.
Bon, bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Attends, maintenant, il y a la nouvelle tradition 2024 déjà qu'il faut qu'on leur demande.
Ah oui, tiens.
Qui me fait toujours rire. On a une question maintenant un peu pour alimenter un peu notre Congosa Business, qui est un concept chez nous. Si on vous demande, quelle est la personne la plus connue qui est dans votre répertoire téléphonique?
Ah, on ne peut pas dire.
C'est ça votre problème. C'est ça votre problème.
On ne peut pas dire ça.
C'est ça votre problème.
Il y a de tout.
C'est la plus connue quoi, en termes de célébrité.
Oui,
on ne peut pas dire.
Il y a la présidence ou quoi?
À qui?
Peut-être Drogba.
Ouais, Didier Drogba, oui.
Ah bon, mais voilà. Donnez-nous les noms.
On sait comment on va passer pour avoir les
plus. Je ne sais plus, on cherche à l'avoir ici. Là. C'est très bien. Non, mais voilà, tu vois, c'est juste...
On a Didier sur WhatsApp.
Donc, Didier sur WhatsApp.
Je me suis toujours vanté de ça parce que quand j'étais petit, je me rappelle que j'allais à l'hôtel du golf parce que l'équipe nationale arrivait et que je voulais un autographe.
Ah ouais.
Et après, on se retrouve avec lui dans un
bureau.
On est avec lui
sur WhatsApp. On est avec WhatsApp avec lui.
Plaisir.
C'est magnifique, ouais, ça, c'est les gars. Chaud, déjà, tu vois, c'est un moment qui est intéressant. C'est un truc que tu avais comme rêve.
Ouais,
tu viens d'avoir.
Moi, j'avais des maillots de Drogba, j'achetais tout le temps. Tu vois, des maillots de Drogba. Et le fait de le voir.
Le jour où tu l'as rencontré, c'était comment? Moi, je demande toujours aux gens.
Il est balèze. Hein.
Ah, bon, il est costaud, tu vois.
Il est carré. On dit, il y a aussi Laura.
Tu sens qu'il est dans la pièce. Tu vois, il arrive. Au début, et puis en plus, tu ne réalises même pas que tu entends lui parler. Quoi. Il est simple et tout. Tu vois. Franchement, c'est impressionnant.
J'imagine. Souvent, on demande ça aux gens, c'est vrai que c'est toujours très...
Mais c'est grâce à votre aventure entrepreneuriale que vous l'avez rencontré.
Ouais, c'est dans un contexte business.
Tu vois?
Exactement.
Tu vois, comme quoi la question là, Congo, ça, business, ça amène
toujours. Ouais, ça amène toujours.
Ça amène toujours un truc. Non, mais écoute, du coup, je pense qu'on peut conclure avec...
Et toi, Moulay?
C'est vrai, moi, j'ai déjà dit. Moi, ça dépend. Si c'est célébrité pure, c'est Youssoupha. Mais si c'est... Si c'est célébrité en termes d'impact vraiment et personne que j'ai, c'est l'un de mes investisseurs, Anders, qui est le milliardaire, qui est le plus gros actionnaire de Asos et Zalando.
Ok.
Lui, j'ai son WhatsApp.
Ok, waouh. Ça, c'est valuable, hein.
Bon, c'est pas comme si tu lui écris tous les jours.
Ouais, faut savoir ce que tu écris.
Le jour où tu écris là-bas, là, c'est que tu es sûr que tu n'as rien à dire. Sinon, tu n'écris pas comme ça.
Faut pas t'aiguiller.
Mais voilà.
Je dis comme ça, je sais pas... C'est sûrement chez les artistes. Mais ce qu'il a dit comme anecdote, ça me fait penser à Passy.
Ah, t'as passé, mais oui, Congo, mais oui, Bissona Bisso, mon petit.
Le premier concert que j'ai vu de ma vie. Et donc là, tu vois, quand il me dit, oui, passe au studio, je vais te faire écouter tel truc. Tu vois,
c'est incroyable pour toi.
Ouais, donc en fait, oui, ces gens-là ne se rendent pas compte, tu vois.
C'est fou le pouvoir des artistes et des sportifs.
Sur les malades.
Quand
des
tu regardes la CAN, pour moi, j'ai commencé à vivre la CAN quand la chanson de la CAN est sortie.
Mmh. Ah, intéressant, tu vois, sérieux. Ouais,
c'est là que j'ai senti que, ah, ok, il y a la CAN qui arrive. Le pouvoir qu'ils ont, c'est quand même, il est magique. Il est magique.
Ouais. Non, très bien. Bah, écoutez, du coup. Après ces 2h30 très enrichissantes, merci les gars encore.
Ça merci. Un peu hein, par rapport aux autres.
C'était quoi?
Oui, ça a duré, ça a mais il fallait.
Okay. Non, vous avez trop de choses à dire.
Un rendez-vous pris depuis un an, il fallait.
Il fallait qu'on amortisse. Et puis, non, franchement, il y a beaucoup de leçons.
C'était vraiment.
Énormément de gens. Donc merci beaucoup les gars d'avoir été aussi transparents. Parce que je sais qu'en plus, dans votre domaine, c'est encore plus dur que moi et ma grande bouche qui parle n'importe comment. Je sais que c'est quelque chose que vous faites pour aider. Vraiment. Et du coup, pour conclure, ce qu'on demande, c'est que ceux qui vont nous écouter et qui sont arrivés jusqu'à la fin, pour montrer qu'ils sont arrivés jusqu'à la fin, vous allez choisir un mot avec lequel ils vont faire un commentaire. Donc, ils vont utiliser le mot dans un commentaire.
Donc un mot que vous évoque la conversation qu'on vient d'avoir.
Exactement. Donc, ils vont faire un commentaire avec le mot que vous allez choisir. Donc, si vous pouvez choisir un mot proposé.
Je ne sais pas.
Pour la discussion, un mot chacun, vous auriez... si vous voulez.
Ouais, pour un mot chacun. Je ne sais pas. Quel mot vous pensez, à peu près ces 2h30, quel mot pour
partage.
Vous Partage. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Toi, partage. Hassan, tu dirais quoi?
Je dirais, moi, je sais pas quoi. Là, j'ai vraiment pas d'idée. Là.
On peut rester sur partage. On partage.
Oui, partage.
Ouais. Partage, t'es bien.
Ouais. Bah, écoute, on a partagé tous les deux. Ouais.
Franchement, ouais. Donc, on prend. Donc, les gars,
commentez, likez, tout ça, là, les trucs de YouTube. Hein.
De YouTube. Et puis, non, abonnez-vous quand même. C'est gratuit. Vous voyez comment on doit harceler les gens pour vous. Où est-ce qu'ailleurs vous allez avoir ces gaillards-là qui vous livrent tout ça? Abonnez-vous quand même, parce qu'il y en aura d'autres comme ça. Vous avez entendu là, ce n'est que le début.
Donc, abonnez-vous. Et puis surtout, ce que j'aime dire de plus en plus, n'hésitez pas à poser des questions.
Ouais.
Parce que du coup, on va essayer de plus en plus faire des rubriques où on peut essayer d'avoir les réponses à ces différentes questions. Et donc, voilà quoi. Mais en tout cas, vraiment merci parce que...
Mille merci les gars.
On a appris vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'était vraiment passionnant. À la fois vos histoires passées, merci, présentes et, moi, et donc futures.
Je vous dis merci parce que vous avez pu tirer Hassan pour venir faire
4 Tu as vu, non
fois. Merci de nous avoir.
Ah, mais les gars, on lâche rien.
Vous êtes forts, franchement.
Grâce à lui,
je pense qu'il ne va plus jamais faire ça encore.
Il n'a plus besoin, ça, là, c'est bon, là.
Écoute, si c'est des amis qui m'invitent.
Franchement, c'est
une fois par an, c'est pas mauvais. Une fois par an.
Une fois par an, tu dois faire un update, quoi, après.
Oui, il faut qu'on fasse un update l'année prochaine.
Mais avec eux, ça va vite. C'est vrai que peut-être l'année prochaine encore.
Ouais.
Des trucs. Mais franchement, merci, les gars.
Et bravo pour ce que vous faites, les gars.
Ah, merci. Franchement, on essaye d'être utile. Et les gens nous diront.
De partager.
Voilà, de partager.
Je vous disais, je t'ai dit plusieurs fois, tu fais partie de... mon support système, je t'ai dit ça, non? Où je regardais tes podcasts.
Ah oui, que c'était comme un...
J'écoute, tu vois, ça me permet de me retrouver un peu.
De sentir pas seul.
D'autres personnes qui passent par ce quoi je passe. C'est très important ce qu'on fait. Pour les entrepreneurs, c'est très important.
Merci à Régis qui retweet souvent.
Ouais, c'est un de nos grands. Suivez tonton Régis, c'est un peu, c'est important.
C'est un influenceur.
C'est un influenceur, c'est dit. Il se moque de moi tous les jours que Dieu fait ici. Twitter. Il est beaucoup plus lourd, en vrai.
C'est les gens de Twitter.
Twitter.
C'est ça, on est là-bas. Ouais. Donc, non, ensuite, tonton Régis. Tonton Hassan n'a pas encore votre temps, mais si vous croisez, saluez-le.
Merci beaucoup, les gars.
Merci à vous.
Merci.
Allez, à ciao.
À ciao, tout le monde.